Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un invité, Gabriel. On l'a déjà eu dans un épisode précédent et le revoilà. Et alors, vous allez comprendre un peu pourquoi il est de nouveau là. On s'est noué d'amitié d'ailleurs ces derniers mois. On l'a rencontré plusieurs fois en vrai, c'est très bien passé. Donc c'est pour ça aussi qu'on le réinvite. Un truc que je veux absolument vous dire, c'est qu'il faut aller sur Spotify. Apparemment, ça marche. Vous pouvez maintenant mettre une petite alerte sur Spotify et dès qu'on publie un épisode, vous recevez une notification. Plusieurs personnes m'ont envoyé un message, m'ont dit que ça marchait. Donc, allez-y sur Spotify, petite alerte. C'est une petite, comment on dit, une belle. Comment on dit en français une belle?
Une cloche.
Une cloche, une petite cloche comme sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Apple Podcast, laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Nous faire une review honnête, la plus honnête possible. Si elle est positive, c'est encore mieux. Sur Apple Podcast, laissez des commentaires sur YouTube et partagez au moins un ami. Vous n'êtes pas obligé de partager sur vos réseaux sociaux si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus, mais au moins vous dire, tiens, dans mon cercle proche, est-ce que j'ai un pote, une pote qui pourrait aimer le podcast? Si oui, je lui envoie le dernier épisode ou la chaîne directement. François, tu es en Sicile, c'est ça?
Oui, actuellement je suis en Sicile. J'ai rendu hommage à Al Pacino. Je viens de passer dans le village où il s'est marié en Sicile. Enfin, où il s'est marié dans le film, bien sûr, en Sicile. Et je viens d'arriver dans mon Airbnb. Du coup, j'arrive tout frais pour parler avec vous. Je suis très content. Je te laisse continuer.
Oui, mais j'ai pas grand chose à. Enfin, si, j'ai des choses à dire. Écoute, hier soir, on a été manger avec Gabriel. On s'est fait inviter par des. Je pense que ils écoutent le podcast, je pense. Ouais, je crois que c'est des auditeurs qui sont dans la crypto. C'est des 42 qui viennent de sortir de 42. Ils sont dans la crypto. Ils ont fait un petit dîner où ils nous ont invités avec Scott. Scott, qui est un entrepreneur américain qui vit maintenant en Europe, qui crée une plateforme. On ne va pas parler de crypto dans cet épisode, mais en tout cas, il crée des choses autour des NFT et de la crypto. Et c'était une soirée assez cool, particulière, mais cool. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Gab.
Ouais, c'était sympa. Bonjour à tous les deux. Merci de me recevoir à nouveau. Je suis super, super content d'être là. Je ne peux pas m'empêcher, pour ceux qui ont la vidéo, je ne peux pas m'empêcher de bugger sur ton.
Je vais l'enlever. Je vais l'enlever.
Tu l'as gardé, mais vraiment tranquille, quoi, pour présenter le podcast. Les gens, ils vont halluciner. Attendez, bon, bref, c'est très cool.
Je vais l'envoyer.
Le dîner hier soir était sympa. Et je dis ça juste parce qu'ils écoutent. Hein, sinon, je te dirais en privé ce que j'en pense. Non, je rigole. C'était intéressant. Ça fait longtemps, avec le Covid, etc., les confinements, qu'on n'avait plus fait ce genre de choses. Et moi, je trouve ça toujours agréable. C'est l'idée, si j'ai bien compris, l'idée d'un dîner, voilà, par centre d'intérêt, de dire on s'intéresse à la crypto, on se retrouve, on discute. C'était hyper informel, hyper sympa. On n'était pas beaucoup, on était 6. Mais ouais, moi, j'ai passé un très, très bon moment. Et c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir parler, de pouvoir lâcher un dîner. T'as vu les fees, le gaz, il était trop élevé. Qu'est-ce que tu penses du floor des NFT? Et tout le monde comprend, alors qu'en théorie, tu passes pour un abruti ou un fou. Donc voilà, c'était très sympa.
Ouais, et on en refera des dîners comme ça. Et peut-être, n'hésitez pas à nous envoyer des messages si ça vous intéresse. On a toujours quelques places pour quelques personnes. Qu'est-ce qui s'est passé récemment, Gab? Juste pour récap, est-ce que tu peux nous dire en une phrase, nous répéter ce que tu fais, même si tu l'as déjà fait pendant tout un épisode, mais nous répéter ce que tu fais comme métier ou day-to-day, et qu'est-ce qui s'est passé récemment? Ça a un lien avec YC, si j'ai bien compris?
Ouais, tout à fait. Donc, effectivement, c'est notre deuxième épisode. Ceux qui veulent en savoir plus, on en a parlé en long et en large. Donc, je ne sais pas s'il y aura le lien. De toute façon, vous trouvez.
Ouais, il y aura le lien.
C'est l'épisode quoi, 44, 5. Donc, vous n'avez pas beaucoup de recherches à faire et vous retrouverez avec mon nom. Donc, ce que je fais, c'est que j'anime un club d'investisseurs français, francophone. Donc, au travers duquel on se réunit tous ensemble pour investir dans des startups de la Silicon Valley. Donc, l'idée, c'est de se réunir et le nombre fait la force. Donc, on peut se réunir et investir des petits tickets, donc c'est-à-dire à partir de 2 500 €. Mais en se réunissant à plusieurs centaines, on est plus de 400, ça fait des centaines de milliers ou parfois des millions de dollars qui nous donnent accès en fait à des deals de la Silicon Valley très en vue, des deals très intéressants auxquels on n'aurait pas accès. D'une part, parce qu'on est un Français dans son coin et qu'on n'a pas accès à ces deals-là. Et d'autre part, même si on y avait accès, le minimum, ce serait 100 000, 200 000, parfois 500 000 dollars. Donc, tout seul, ça fait des budgets évidemment inatteignables, inaccessibles pour la plupart des gens. Mais là, à partir de seulement 2 500 €, on y arrive. Voilà ce que je fais. Ça s'appelle Léonis Investissement. Et effectivement, donc le 31 août dernier, là, on enregistre ça le 9 septembre, donc il y a vraiment quelques jours, a eu lieu le Demo Day du Y Combinator. Donc, pour redéfinir et resituer de quoi je parle, le Y Combinator, c'est le plus grand incubateur de start-up au monde. Il est situé dans la Silicon Valley à San Francisco, même si maintenant il est remote, on va en reparler. C'est un incubateur par lequel sont passés Coinbase, bien sûr, je le mets en premier, mais aussi Airbnb, Stripe, Dropbox, Twitch, Instacart, etc., etc., DoorDash. Donc, c'est de très, très loin les meilleurs et c'est vraiment pour moi indéniable et il n'y a vraiment pas au-dessus. Et donc, deux fois par an, ils font ce qui s'appelle le Demo Day. C'est-à-dire qu'en fait, deux fois par an, ils ont des batchs où ils vont accompagner des startups pendant 3 mois. Ils vont les accélérer, les incuber, puisque c'est un accélérateur et un incubateur, les coacher, les aider à se développer, etc. Et à la fin de ce batch pardon, qui dure 3 mois, il y a le Demo Day où les startups du batch en question viennent présenter devant les investisseurs. Donc, il y a deux batchs par an, Winter et Summer. Et donc, le 31 août, c'était la fin du batch Summer, comme vous pouvez vous en douter. Et il y a eu ce fameux Demo Day. C'était de très loin le plus gros. Il y avait 377 startups qui ont présenté, qui ont pitché.
Ça a duré donc, combien de temps du coup? Parce que c'est quoi le temps de pitch et ça dure combien de temps ce truc-là?
Alors, le pitch par startup, c'est 60 secondes. Donc, et c'est une slide. Donc, c'est hyper violent.
Moi, je pensais que c'était un vrai pitch de au moins 5 minutes avec plusieurs slides et tout. Non, non.
Bah, t'imagines, c'est pas comme 377. Ça, ouais, avant, c'était un peu plus long, mais en fait, c'était pareil. C'était entre 60 secondes et 120 secondes. C'était une ou deux minutes. C'était sur scène. C'était toujours une slide. Et tu avais peut-être 1 minute 30, 2 minutes, mais c'est vraiment, vraiment à la chaîne, si tu veux. Alors, quand c'était en présentiel, hein, puisque à l'époque, c'était voilà, à San Francisco, etc., c'était un peu plus long parce que tu avais un petit applaudissement, il sortait de scène, il revenait, on changeait le slide, il vérifiait que le micro marchait bien, etc. Donc, tu avais des petits temps morts que là, tu as beaucoup moins parce que c'est vraiment sur Zoom et ça s'enchaîne. Donc,
c'est du live ou c'est du pré-record
genre, c'est du 100% live. Okay. Donc, je ne sais pas si tu imagines le boulot derrière pour que tout fonctionne bien. Alors, il y a quelques petits couacs, ouais. Mais très peu. Tu as toujours un gars où il a oublié, par exemple, d'activer son micro. Donc, tu le vois sur Zoom, il est comme ça, ah, mais tu n'entends rien. Et donc, au bout de 10 secondes, ça passe au suivant et puis il revient une demi-heure après.
Je me dis, c'est dommage. Tu vois, il pourrait, par exemple, demander à tout le monde de pré-record le truc, d'envoyer la vidéo et après, il passe une grosse vidéo sur Zoom. En fait, tu as tous les pitchs, tu vois. Et au moins, tu sais, t'es sûr que le pitch, il est carré, que le mec a pu refaire au moins 10 fois son pitch de son côté. Après, c'est vrai que tu ne vois pas un peu c'est quoi la réaction du mec en live, est-ce qu'il est bon vendeur sous le stress et ce genre de choses qui sont en fait des paramètres des fois qu'on prend en compte.
Je ne sais pas pourquoi ils le font pas. Je me suis posé la même question que toi. Qu'est-ce qui fait que voilà, mais effectivement, je pense qu'ils veulent garder un esprit live. Donc début 2020, à cause du Covid, évidemment, ils ont complètement changé leur programme et ils sont passés en full remote. Ils ont décidé maintenant qu'ils restaient en full remote et probablement qu'ils allaient rester indéfiniment, même quand le Covid sera totalement terminé. Ils ont le temps de changer d'avis. Et donc le Demo Day aussi a été full remote, alors qu'effectivement avant tout le monde voyageait, c'était un pèlerinage, on allait sur place. Pourquoi ils le font pas en pré-enregistré? Je pense que c'est pour garder ce côté effectivement live, un peu authentique. Et je pense que le fait qu'il y ait quelques bugs, il y en a très peu, hein, sur, tu vois, 400 présentations, tu as 3-4 couacs, 3-4 bugs, mais au moins, parce que moi-même, en fait, au début, je me posais la question presque, est-ce que c'est en live ou pas? Et là, tu en as la preuve, c'est tellement bien rodé par ailleurs que tu peux te demander, et là, tu as la preuve que voilà, c'est bien du live. Donc, c'est assez difficile à regarder parce qu'en fait, toutes les 60 secondes, tu dois te reconcentrer. Vraiment en partant de zéro, tu ne peux pas avoir une inattention, tu ne peux pas faire une pause de 5 minutes, etc. Parce que toutes les minutes, ça enchaîne, il faut vraiment que tu sois concentré en permanence et à chaque fois que tu passes très vite à autre chose en disant « Ok, j'ai vu ce gars-là, très vite, est-ce que ça m'intéresse ou pas ?» Alors, pas pour investir, parce que c'est le but, hein, moi j'y vais en tant qu'investisseur, mais est-ce que ça m'intéresse ou pas d'en savoir plus, de creuser, de rencontrer le gars? Mais tu sais que tu ne peux pas rencontrer les 400 personnes, donc il faut faire un choix. Et tout de suite, tu te reconcentres. Et donc, pour répondre à ta question, ça dure cette année, ça a duré 2 fois 5 heures. Donc, 10 heures en tout. C'est de 9h à 14h à l'heure de San Francisco. Donc, à l'heure de Paris, c'était de 18h à 23h. Donc, voilà, de 18h à 23h avec 3 pauses de 10 minutes et le reste du temps, focus comme ça, full, un premier soir et un deuxième soir, tu recommences. Donc, c'est le 31 août et le 1er septembre.
Et dans ce cas-là, tu fais ça sur l'ordi ou tu fais ça sur ton tel pour pouvoir bouger dans ta maison? Ou bien alors vraiment, les 10 minutes de pause, comment tu fais pour les caler?
Écoute, non, je faisais ça sur l'ordi. Voilà, j'ai un MacBook, donc je peux me déplacer s'il faut. Voilà, j'étais tranquille installé dans mon canapé. Tu vois, j'étais pas sur ma chaise. J'étais un peu détendu, voilà. Mais effectivement, tu vois, par exemple, j'avais pas dîné, et donc Je commence un peu à cuisiner en écoutant, etc. Puis j'attends une pause pour manger et boum, la pause, j'ai 10 minutes, je suis en mode go, go, go. On sert, on mange, mais au bout de 10 minutes, on n'a pas fini de manger, donc ça reprend, on est encore en train de manger. Je dis, moi je suis avec ma copine à la maison, je lui dis, bah silence, on mange, je ne peux pas te parler, je regarde. Enfin, c'est
la prière.
C'est que deux fois par an, mais voilà, c'est une vraie organisation. Ouais.
Et du coup, tu prends des notes au cours des présentations. Comment tu fais pour checker? Vous recevez une grille avec les startups? T'as déjà des critères présélectionnés? Tu coches? Comment ça se passe, toi,
ouais,
en tant
alors,
que,
y a...
que pro?
Ouais, il y a pas mal de choses. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, ce n'était pas le cas au début pour moi. C'est mon troisième Demo Day. Il faut savoir que c'est très, très dur d'y rentrer, quasi impossible. Il y a quasiment aucun Français. Et c'est vraiment des gens qui sont sélectionnés, triés sur le volet. Donc, il faut postuler pour pouvoir être accepté, pour pouvoir y assister. Donc, c'est mon troisième. Ça fait longtemps que je voulais y assister, mais ça fait que trois fois. Donc, je crois que le premier, c'était Summer 2020. Puis après, j'ai fait Winter 2021 et Summer 2021. Et donc, les premières fois, c'était beaucoup pour moi une découverte des startups. Il se trouve que maintenant, comme je suis vraiment, intégré dans cet écosystème, j'ai accès à beaucoup de dossiers avant le Demo Day. Donc, en fait, il y a déjà beaucoup de boîtes pour lesquelles ce n'est pas une découverte, pour lesquelles je les connais déjà. Pour beaucoup, j'ai déjà échangé, parlé avec les fondateurs. Donc, c'est un peu plus facile pour moi parce que ceux que je connais déjà, voilà, je n'ai pas besoin d'être aussi attentif, je sais de quoi ils vont parler, etc. Mais effectivement, ensuite, tu as un outil en ligne qui est fourni par le Y Combinator où tu as chaque startup avec le pitch, la slide qui présente. Que tu peux avoir avant même le Demo Day, la veille, tu peux déjà regarder les slides avec le nom de la société, le petit résumé, tu vois, le two lines, donc le résumé très rapide de ce qu'ils font, le LinkedIn des fondateurs, et surtout, tu as un bouton like. Et donc, c'est ça qui est très, très bien fait, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'une startup t'intéresse, tu cliques sur like, et là, automatiquement, ça déclenche une intro par email. Donc, c'est un mail du YC qui met toi en copie et le fondateur en copie. Voilà, t'as été liké, démerdez-vous, parlez-vous, faites votre vie, quoi. Donc c'est ça qui est sympa, c'est qu'en fait tu regardes et t'as 60 secondes pour te décider est-ce que je veux aller plus loin ou pas, et tu cliques sur like, et ensuite bah, le lendemain t'as dans ta boîte mail avec 50 emails et tu tries, tu réécris au gars, salut, est-ce qu'on peut se parler, etc.
Du coup peut-être que tu comptes en parler juste après, donc si jamais c'est le cas, tu next la question. Est-ce que tu as, sur les 360 des startups qui sont présentées, combien tu en as liké? Et surtout, est-ce qu'il y a une logique d'investissement, genre des industries, une spécialisation dans ta recherche? Est-ce que tu cherches des deals, par exemple, sur des marketplaces, sur des SaaS, sur du consumer, sur du B2B? Est-ce que tu as déjà, en gros, présélectionné des startups sur ces critères-là? Où est-ce que tu y vas un peu au coup de cœur, quelque part?
Alors, ça, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment ma philosophie d'investissement. Alors, il y a plusieurs questions. Déjà, je viens de regarder parce que je ne l'avais pas en tête. Je peux te dire combien de startups j'ai liké. Donc, sur 377, j'en ai liké 24. Mais en fait, avant ça, j'avais parlé à peu près 35. Donc, moi, il y en avait 35 que j'avais déjà repéré avant le Demo Day, et avec qui j'avais parlé. Avec qui j'avais parlé avant, 35, et en plus, il y en a 24 autres, soit que je ne connaissais pas, soit avec lesquels je n'avais pas réussi à rentrer en contact, que j'ai vraiment liké pour que ce soit officiel. Voilà, je vous ai vu au Demo Day, je vous ai liké, parlons. Donc, ça fait 24 plus 35, ce qui fait 60 en tout sur 377 à qui j'ai vraiment voulu parler. Mais 35 avant, 24 après, encore une fois, c'est cool d'avoir les connexions avant. Et en fait, je ne le fais pas pour le plaisir, mais parce qu'en fait, les meilleures boîtes du YC, elles arrivent au Demo Day, elles ont déjà fait leur levée de fonds. Donc en fait, si tu arrives et que toi, tu les likes comme une fleur au Demo Day, et d'ailleurs, j'ai eu des mails comme ça, hein, y a eu quelques boîtes que j'ai likées, et le mec, il y a le mail d'intro, et le mec, il répond « Désolé, on a fini un tour de table, ciao ». Et c'est aussi radical que ça, et donc tu n'as juste pas moyen d'investir, c'est impossible. Donc… Si tu veux vraiment avoir les meilleurs deals, il faut essayer de le faire avant. Et c'est pour ça que j'essaye d'entrer en contact avec eux. Et il y en a d'ailleurs où il y avait des boîtes où j'avais écrit aux fondateurs, je les avais repérés, j'avais entendu parler d'eux, etc., pour essayer de rentrer en contact. Les mecs ne m'avaient pas répondu. Je les like pendant le Demo Day. Et soit ils me répondent, c'est mort, c'est trop tard. Soit pareil, ils ne répondent pas. Moi, quand j'ai le mail commun, j'ai écrit un petit mail en disant salut, est-ce qu'on pourrait se rencontrer, etc. Il y a des mecs qui te ghostent littéralement parce qu'ils ont tellement de demandes. Ce n'est pas méchant ou quoi. C'est juste que. Voilà, moi, j'ai vu des boîtes mail de fondateurs de YC. Ils vont pitcher 60 secondes, mais dans la minute qui suit, tu as des mecs qui vont recevoir 300 mails d'intro de 300 investisseurs. Donc, tu ne peux même pas prendre tous les rendez-vous parce que rien que pour parler à 300 personnes, même 30 minutes, tu en as pour deux mois, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour les secteurs. Alors écoute, moi, j'ai une philosophie d'investissement. C'est pas, je pense, la même chose pour tout le monde, hein. Mais il y a quelques secteurs que je me ferme, sur lesquels je ne vais pas. Je vais te dire lesquels. Mais sinon, sur le reste, je suis effectivement assez ouvert. J'y vais ouvert d'esprit à la découverte en me disant bah, ce n'est pas parce que ce n'est pas forcément une fintech que forcément, j'y vais pas. Je ne fais pas que de la fintech. Alors, la fintech, j'en fais un peu plus que le reste parce que j'y crois beaucoup, parce que j'ai eu des très, très bonnes histoires, des très bons exits, etc. en fintech. Et d'ailleurs, le Y Combinator aussi, ils font beaucoup de fintech. Donc, ce n'est pas un hasard. Je pense qu'eux aussi, ils trouvent que c'est un secteur hyper porteur. Ce que je ne fais pas, c'est le médical. Alors, pour deux raisons. Premièrement, je ne suis pas médecin et je ne m'y connais pas assez. Je ne suis pas un expert dans le médical. Il y a beaucoup de potentiel, hein, et il y en a aussi beaucoup au YC. Et d'autre part, le médical, c'est encore plus long que les startups. En fait, déjà, les startups, c'est long. Hein, quand on investit, c'est du long terme, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Le médical, c'est encore plus long parce que tu as toutes les mises sur le marché, la réglementation, etc. etc. Donc, déjà qu'on est sur un truc long, autant pas s'en rajouter, même s'il y a des très bons coups à faire dans le médical. Mais en plus, je ne m'y connais pas. Donc, ça fait que je n'y vais pas. Et puis, je ne fais pas les business où il y a des produits physiques. Donc ça, c'est pour le coup assez restrictif. Et il y a beaucoup de business qui peuvent être éliminés, même si le YC, c'est surtout du digital, évidemment. Mais je ne fais pas les produits physiques simplement parce que bah, c'est plus difficile. Un produit physique, tu as toujours plus de coûts pour faire tourner ta boîte parce que tu dois produire pour vendre. Alors qu'une boîte software, une boîte SaaS, etc., quand, imagine, il n'y a plus d'argent dans les caisses, bah, ils peuvent quand même continuer à vendre sans rien dépenser parce qu'une fois qu'ils ont créé leur software, voilà. Donc c'est plus difficile de réussir avec des produits physiques. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il y a des millions de contre-exemples, Apple, McDonald's, Tesla, tout ce que tu veux. Mais voilà, moi en tant que startup, je ne fais pas ça. Mais après, pour tout le reste, ce qui est quand même peut-être, je ne sais pas, 75% du YC en enlevant 24% de médical et 1% de produits physiques, tout le reste, oui, je peux potentiellement investir.
Il y a beaucoup de direct consumer là dans le batch que tu as eu.
Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de. Alors, enfin, tu parles de DNVB, de produits physiques, ou tu parles de direct consumer grand, enfin global, y compris. Ah, produits physiques. Non, il y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. Je sais même pas. J'en ai même pas qui me viennent en tête. Si, il y a un truc génial, par exemple. Alors, j'ai adoré. Bah, je comptais vous en parler. Est-ce que je comptais? Ah, bah, je l'avais même pas noté. Non, mais quand même, j'adore et je voulais quand même vous en parler. C'est une boîte qui fait du pain management pour les gens qui ont du chronic pain, donc de la douleur récurrente. Ça peut soit être des gens en fin de vie, soit des gens qui ont des maladies graves, type cancer, autre, et qui ont des douleurs voilà, pendant des mois, des années de leur vie.
Comme ça, je peux regarder en même temps.
Là, tu me poses une colle.
Tu l'as plus
je... C'est pas grave. Attends, je me demande si c'est pas Covid. Non, c'est pas ça.
Ils ont cherché le nom. La boîte s'appelle Covid.
Non, Covid. Il y a une boîte qui s'appelle Covid au YC, c'est au VIE, mais c'est pas ça. Attends, si je tape Pain. C'est Flowly, pardon. Flowly. Flowly. Et donc, en fait, il t'envoie chez toi un petit capteur cardiaque qui va capter ton rythme cardiaque, parce qu'en fait, la douleur et le rythme cardiaque, c'est associé. Quand tu as mal, bah, ton rythme cardiaque, il s'accélère, c'est normal. Et il t'envoie un headset en VR, en réalité virtuelle, pour voir comme ça ta réalité virtuelle. Et en fait, ce que tu vois devant tes yeux, la VR, est contrôlé par le capteur cardiaque. Donc, plus tu as de la douleur intense, plus tu vas avoir des choses qui vont t'apaiser et te plonger dans un monde différent. Et en fait, ils ont fait des études sur des patients, donc des études humaines, hein, puisqu'il n'y a pas d'intervention physique, etc. Et on n'ingère rien, donc c'est très facile de tester sur des patients en live. Et ils ont une réduction de la douleur perçue de 40% en quelques minutes, ce qui est juste énorme. En faisant entre guillemets rien, mais en fait en faisant pas rien, en te mettant un univers VR, voilà.
Ouais, là je regarde. Donc ça, c'est indirect. Tu mets le casque et genre tu vois, t'es un peu plongé dans l'océan, t'as un feu de bois au milieu des bois et tout, ça te calme quoi. Enfin, je peux comprendre tout à fait. Ok.
Voilà. Okay. Ça, je trouve ça génial. C'est hyper différent de ce qu'on voit d'habitude, hein, mais je trouve ça hyper hyper sympa. Et voilà, ça c'est indirect to consumer par exemple. Alors ils sont aussi bien sûr en partenariat. Avec des hôpitaux, des médecins, des centres, etc. Mais ils font aussi direct to consumer. Mais après, alors, ce que moi j'appellerais des direct to consumer, ça peut être aussi par exemple une néobanque pour les particuliers, c'est aussi un direct to consumer. Mais dans ce que toi tu disais de produits physiques, non, il y en a très peu, bien sûr.
Ouais, genre, tu vois, on a parlé des Kellogg's, enfin des céréales keto, genre sans sucre, genre de trucs, tu vois, ces trucs qu'on aime bien, un peu, c'est des business un peu. Où tu prends des produits en fait un peu mass market ou même pas mass market forcément, tu les brandes mieux, tu les tweaks peut-être un peu en termes de production de produits, et c'est juste tu bombardes sur le marketing et tu essaies de prendre une part de marché et potentiellement te faire racheter par Kellogg's, par exemple.
Genre de boîte. Alors, okay. C'est vrai que YC, ils sont vraiment développeurs first. Et donc, par exemple, si tu n'as pas de CTO, si tu n'as pas de développeur associé, paraît-il que c'est très dur d'être pris, voire quasi impossible. Donc voilà, ce qui va être un produit, tu vois, des céréales, etc., ce qui peut par ailleurs cartonner, mais je pense que ça manque de tech pour eux, à mon avis.
J'ai une question d'ailleurs, Gabriel. J'ai vu que YC faisait beaucoup d'événements et avait essayé de sortir plein de features, enfin en tout cas quelques-unes qui marketent quand même pas mal pour matcher des fondateurs entre eux, entre par exemple un CTO et un business dev, etc. Est-ce que ça fonctionne réellement, ça ? Est-ce que vous avez un peu le background de l'histoire des fondateurs, et est-ce que des fois, ces fondateurs viennent vraiment d'un tool qui les a matchés entre eux ? Parce que j'ai déjà voulu l'essayer, mais sans grande conviction, du coup, je ne suis pas allé jusqu'au bout, je me suis demandé si c'était vraiment un truc qui fonctionnait.
Écoute, la réponse, c'est que je ne sais pas. À l'heure actuelle, je ne sais pas. Le tool dont tu parles, effectivement, il a été lancé très récemment, là, il y a quelques semaines, peut-être quelques mois. Donc là, à ce batch-là, il n'y a personne qui a dit, voilà, on s'est rencontré sur le truc YC. Peut-être qu'il y en avait qui s'étaient rencontrés, qui ne l'ont pas dit, mais je n'ai pas entendu ça une seule fois. En plus, les pitchs, c'est une personne qui vient pitcher, alors que c'est toujours des équipes. Ils ne sont quasiment jamais seuls. Et donc, parfois, ils disent, bah, y a mes cofondateurs, un tel et un tel, ils les mentionnent. Parfois, ils ne les mentionnent même pas, parce que 60 secondes, c'est tellement rapide. C'est compliqué, ce genre d'outil, de trouver un cofondateur. Il y en a plein qui existent. Pour avoir connu quelqu'un qui a cherché un cofondateur et qui a été sur des sites type cofondateur.fr, etc., c'est hyper compliqué. Cofondateur.fr, je crois que tu payes 100 euros. On te dit, bah, on va te trouver un développeur. Et derrière, tu n'as que des freelances qui te vendent des missions, qui te disent, bah, non, mais moi, je ne veux pas être cofondateur, je veux que tu me payes et tout. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Donc, ce n'est pas évident. Mais s'il y a un endroit où ça peut marcher, c'est YC. Toujours pareil, parce qu'ils ont un tel branding qu'ils vont attirer vraiment du monde.
Ou le talent derrière, de qualité aussi.
Voilà, exactement, des talents de qualité. Et que derrière, il y a la promesse de, bah, on va faire YC ensemble. Mm-hmm. Enfin, on va essayer. Donc, je pense que ça peut marcher, mais je sais pas.
OpenDeck a un tool, enfin, c'est pas un tool de matching. Par contre, tu peux. Tu as un répertoire avec tous les alumni OpenDeck. Et il y a des boîtes là qui sont créées, qui ont levé, qui grossissent aujourd'hui, qui ont rencontré leurs cofondateurs grâce à ce directory. Mais c'est simple, c'est juste que les gens sont triés, tu sais que tu as de la top qualité dedans, et tu sais que toutes les personnes qui ont voulu expressément apparaître dans le répertoire, bah, c'est des gens qui ont envie de créer une boîte. Donc tu vois, tu n'as pas des mecs qui essaient de te vendre des prestats ou des trucs comme ça, quoi. C'est des mecs d'Ether et ça fait sens.
Je ne sais pas quelles sont les conditions pour rentrer sur la plateforme YC, enfin sur ce truc de matching. Est-ce que justement, effectivement, ils vont checker pour virer les freelances parce qu'ils n'ont a priori rien à faire là ou pas ? Je pense que oui, parce qu'ils doivent être conscients du problème. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je n'ai pas testé, moi, personnellement.
Ok. Et dis-nous, là, je suis sûr, bah, alors, est-ce que tu as investi dans des boîtes ? Si oui, combien ? Et après, c'est quoi les trucs intéressants ? Parce que tu as des boîtes intéressantes dans lesquelles tu as investi, certainement. Tu les as trouvées, toi, intéressantes, j'espère. En tout cas, tu as certainement des boîtes dans lesquelles tu n'as pas pu investir. Pourquoi ? Alors, est-ce que c'est le cas ? Et si oui, pourquoi ? Et dis-nous un peu là les marchés intéressants, genre la boîte de verre. Là, je kiffe bien ce genre de truc. Ce n'est pas une boîte que je pourrais faire, mais ça me fait kiffer de voir ce genre de marché, d'approche. J'aime plus tout. Parce que typiquement, Flowly, là, le truc, c'est… je ne sais pas vous, mais pour moi, ça me paraît la boîte… C'est typiquement le genre de boîte où il doit y avoir beaucoup de personnes qui font de la recherche médicale ou autre, qui ont essayé de faire ce genre de truc en spin-off dans une université. Et c'est un truc qui a traîné pendant 5 ans et qui n'est jamais sorti de là, parce qu'en fait, les mecs qui faisaient ça, c'était des PhD et pas des entrepreneurs. Et il y a plein de boîtes comme ça. Et pour les auditeurs, vraiment, si vous voulez creuser des boîtes avec beaucoup de potentiel backées par de la data, mais qui peut-être ne seront jamais sur le marché, allez voir les spin-offs que les PhD et les chercheurs font dans les universités. C'est rempli de potentiel produit qui est plus validé que ça par de la data tumeur. Par contre, les mecs qui font ça, ils savent pas vendre, ils savent rien faire, à part faire de la recherche et build des produits qui marchent, quoi. Et c'est là que tu te rends compte que c'est pas que c'est ce qui suffit pour faire réussir une boîte. Et typiquement, Flowly, pourquoi j'ai dit que c'était cool, c'est parce que je me suis dit, il doit certainement y avoir des gens dans une université, des PhD qui bossent sur des solutions pareilles, et pourquoi on voit pas ça sur le marché, tu vois. Mais vas-y, dis-nous tout.
Je suis complètement d'accord avec toi et j'en ai croisé plein des, voilà, des PhD, enfin des chercheurs qui créent des boîtes et effectivement, ça ne fonctionne pas toujours. À l'inverse, le Y Combinator, là où ils sont très forts, c'est le marketing. Donc, c'est là où ce genre de boîte va pouvoir réussir. Écoute, alors, les tendances, beaucoup de choses différentes. Qu'est-ce que je peux te dire? Alors, il y a pas mal d'outils sur. Maintenant, il y a de plus en plus. Enfin, il y en a quand même quelques-unes sur tout ce qui va être le climat. La décarbonisation, donc soit des turbines qui attrapent le carbone. Il y a une équipe qui a fait
C'est
une
pour
algue,
François, ça. C'est pour
ouais,
François.
voilà, qui fait une
J'adore ça.
algue que tu peux libérer dans l'océan et cette algue, elle capture le carbone. C'est une algue modifiée, etc., ingénierée par CRISPR, j'imagine, qui va capturer le carbone. Et il y a également une boîte, c'est monté par un Français, je ne sais plus le nom non plus, mais c'est le Yuka du carbone, enfin le Yuka du carbone, ouais, enfin c'est ça, du CO2, etc., où tu vas pouvoir scanner tes produits, tu vas pouvoir savoir s'ils sont plus ou moins, quel est l'impact derrière carbone écologique. Donc ça, je trouve ça hyper, hyper intéressant. Donc pas mal de boîtes comme ça, et c'est quand même assez nouveau, il n'y en avait pas il y a encore 2 ans. Donc ça, c'est pas mal. Alors je te dis pas mal, il y en a peut-être 20 sur 400, hein, mais c'est pas rien. Beaucoup de boîtes médicales, bien sûr, et donc là, je m'y suis un peu moins intéressé parce que ce n'est pas du tout mon sujet, mais il y a beaucoup de boîtes médicales, forcément, Covid, etc., plein de choses dans ces domaines-là. Ensuite, vraiment, et ça, c'est une tendance qui s'est confirmée, c'est vraiment une. Je dis qu'il s'est confirmé parce que c'était déjà le cas les précédents batchs, et ça se confirme, et ça a été accéléré par le fait que YC a complètement remote à distance. C'est beaucoup, beaucoup de boîtes d'Inde et d'Amérique latine. Donc, ce qu'ils appellent eux le LATAM, donc toute l'Amérique du Sud, l'Amérique latine et l'Inde. Mais il y avait des dizaines, enfin, à l'appel, vraiment à l'appel de boîtes, à tel point que voilà, ma copine qui écoutait à côté d'un air distrait disait: Mais il n'y a que des Mexicains dans ce truc ou quoi? C'est incroyable. Tous les mecs disaient Hello, my name is Javier. Et tu vois, tu dis: Mais c'est fou quoi, c'est devenu, c'est même plus la Silicon Valley, c'est la Mexico Valley quoi. Et ça, c'est hyper, hyper intéressant. Moi, le Mexique, c'est un endroit qui m'attire beaucoup en termes d'investissement. Par ailleurs, c'est un endroit génial dans lequel j'ai passé des super vacances, mais là n'est pas la question. Mais c'est un endroit extraordinaire parce qu'il y a une très, très grosse population, hein, plus de 130 millions d'habitants, et ça progresse à une vitesse folle. Ils sont juste à côté des États-Unis, mine de rien, même s'ils sont hyper, hyper en retard, hein, c'est un secret pour personne. Et le Covid a accéléré tout ça. Avant 2020, il y avait encore 80% de la population qui n'était même pas bancarisée. Et il est en train de se passer ce qui s'est passé en Chine, c'est ce qui s'appelle le leapfrog. Le leapfrog, c'est le fait qu'en fait, bah, on va sauter une génération. Et notamment, donc, en Chine, par exemple, comme la Chine s'est développée dans les années 90 et 2000, eh ben, ils ne sont pas passés par la case ordinateur. Personne en Chine a un ordinateur, tout le monde a directement eu un smartphone. Parce que nous, on s'est développé peut-être à l'ordinateur et le smartphone est arrivé que, disons, en 2005. Mais les gens, entre-temps, ils avaient acheté un ordinateur. En 2005, en Chine, la plupart des gens n'avaient pas de quoi s'acheter un ordinateur. Mais quand le smartphone est arrivé, ils ont eu de quoi s'acheter un smartphone. Donc, tout est mobile first en Chine, beaucoup plus qu'ailleurs, beaucoup plus qu'en Europe, qu'aux États-Unis, parce que simplement, les gens n'ont juste même pas d'ordinateur. Et c'est la même chose qui est en train de se passer au Mexique et en Inde, d'ailleurs, avec toute la fintech. C'est-à-dire que les populations n'étaient même pas bancarisées. Et au lieu d'aller d'abord vers une banque traditionnelle, une banque classique, une brick and mortar, ils vont aller directement vers les néobanques, vers les fintech. Alors que, je ne sais pas, mais je pense que vous deux, moi, j'ai eu une banque brick and mortar classique dans ma vie. On a commencé par là
Normalement,
parce que les
moi j'ai
fintech,
BNP et
voilà.
Boursorama maintenant, mais ouais, j'ai.
Voilà, et moi aussi, j'ai gardé mon compte brick and mortar à la SOG, même si franchement, il ne mérite pas. Mais voilà, eux, là, dans ces pays-là, on va directement sauter une génération. Donc, il y a énormément de fintech dans ces pays-là, donc de l'ATAM et d'Inde, pas que au Mexique, mais beaucoup au Mexique aussi. En plus, ce qui est très intéressant avec l'Amérique latine, c'est que c'est un continent, mais avec une seule langue, à l'exception du Brésil. Et donc, on a un marché qui peut sembler similaire aux États-Unis par la taille de sa population et par son unité linguistique. Parce que tout le monde le sait, en France, c'est très compliqué pour les boîtes d'aller en Europe parce que ce n'est pas les mêmes réglementations, ce n'est pas les mêmes langues, ce n'est pas les mêmes cultures, etc. Alors, en Amérique latine, on a des cultures différentes et des réglementations différentes, mais on a déjà la même langue et c'est quand même beaucoup plus facile. Donc, toutes les boîtes du Y Combinator qui sont ambitieuses, elles commencent au Mexique, mais elles te disent: Mais moi, je vais aller en Colombie, au Venezuela, en Argentine. Et ça représente quand même des foyers de population importants, hein. La Colombie, il y a énormément de monde. L'Argentine, évidemment. Voilà. Et cette année, j'ai vu aussi beaucoup de boîtes au Brésil, qu'on avait moins les autres années, qui, elles, ne vont pas aller dans les pays autour. Mais pareil, déjà au Brésil, tu as, je ne sais plus combien d'habitants, 250, 300 millions. Enfin, c'est des chiffres, il y a clairement de quoi faire. Donc ça, c'est une première chose. Tout ce qui va être. Vraiment le leapfrog financier de la TAM et de l'Inde. et des services, parfois du coup ça va même plus vite que chez nous, il y a même des services qui vont se lancer là-bas avant que nous on ait ça chez nous. Par exemple, des boîtes où il y en a au moins 5 boîtes qui font la même chose au YC. Alors le YC, ils n'ont pas peur hein, de prendre des copycat, de prendre des boîtes qui sont sur le même sujet, même dans le même batch. Et donc, il y avait 5 boîtes qui faisaient ça au Mexique, 5 boîtes qui faisaient ça en Inde, 5 boîtes qui faisaient ça ailleurs au Latam, etc. Par exemple, tout ce qui est du salary advance, de l'avance de salaire. Mmh. Donc, on est le 20 du mois, votre salaire, il tombe le 30 et vous êtes à court de cash. Eh ben, il y a un gars qui va vous prêter $100, $200 pour pouvoir finir le mois tranquillement. Et alors, il y a plein de modèles différents. Soit il est en contact directement avec votre employeur et du coup, le prêt, il est en fait backé sur votre salaire. Donc, le prêteur ne prend aucun risque parce que c'est votre employeur qui va rembourser à la fin du mois.
Mais en Europe, c'est WageStream en UK, je crois que ça s'appelle.
Voilà, mais tu vois, en France, ce n'est pas hyper, hyper développé. Il y a des trucs, hein. il y en a une d'ailleurs
chez
The Family qui fait ça pour les étudiants. Il y a des petits trucs, mais ce n'est pas encore hyper développé. Mais eux, là-bas, tu vois, ils font et la néobanque et ils sautent directement une génération. Ils proposent tous ces produits-là. Donc, soit c'est garanti par l'employeur, mais du coup, la plupart des gens n'y ont pas accès parce qu'il faut que la boîte ait déjà un accord avec l'employeur en amont. Soit tu as des boîtes qui proposent ça directement en B2C à tout le monde, mais du coup, ils prennent plus de risques, eux, en prêtant l'argent. Donc, il y a plein de modèles comme ça, pareil, sur l'Inde, sur le Latam. Donc, ça, c'est vraiment une grosse tendance. Et puis, je voudrais terminer avec une autre boîte dans laquelle j'ai failli investir, puis finalement, non, toujours au Mexique, toujours sur le Leapfrog, qui s'appelle Pideaki, donc P-I-D-E-A-K-I. Donc, Pide, c'est demander, et Aki, c'est ici. Pideaki, demande ici. Et c'est une boîte qui veut carrément digitaliser tous les petits mom and pop stores, c'est-à-dire tous les petits magasins de quartier qu'on appellerait, nous, les petites épiceries du coin, etc. Parce que ça représente 80% du commerce au Mexique. Hein, forcément, il n'y a pas encore la grande distribution, etc. Enfin, moins. Il y a ça dans les grandes villes, mais pas ailleurs. Et pour la plupart, bah, ils sont encore au crayon et au papier pour faire leur compte, etc. Et là, ça digitalise tout. Tu vas pouvoir non seulement payer avec ton téléphone, mais tu vas pouvoir également régler tes factures de gaz, d'eau et d'électricité directement chez ton marchand en bas de chez toi. Et donc, ça, c'est des trucs qui existent en Chine. En Chine, avec WeChat, sur toutes tes factures d'électricité, tu as un QR code et tu payes sur ton téléphone. Et c'est là où tu te dis, c'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en retard, mais en fait, c'est vraiment le truc de Leapfrog. Ils sautent une génération et dans 10 ans, ils seront beaucoup plus avancés que nous en France ou aux États-Unis où on a encore un vieux truc avec EDF où il faut payer par prélèvement bancaire, mandat SEPA. C'est complètement à l'ancienne, alors qu'on pourrait techniquement mettre un QR code et payer avec, j'en sais rien, Lydia ou n'importe quelle banque française, mais on ne le fait pas parce qu'on est finalement encombré par nos systèmes de legacy, quoi, par nos systèmes à l'ancienne.
Ok, et les boîtes dans lesquelles tu as investi ? Est-ce que tu peux en parler ? Si oui, vas-y.
Ouais, avec grand plaisir. Et j'ai capté en te parlant que je n'avais pas répondu à cette question-là. Il fallait quand même que je te réponde. Donc écoute, on a fait 4 investissements en août, donc avant le Demo Day. Donc c'est toujours mieux d'investir avant le Demo Day pour deux raisons. La première, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est que parfois tu arrives au Demo Day et c'est trop tard. Et la deuxième, c'est que tu as des boîtes où avant le Demo Day, tu investis à une certaine valorisation. Et après le Demo Day, il y a une nouvelle valorisation où ils font rentrer d'autres investisseurs. Et donc, toi, en un mois, en fait, tu as fait un multiple parce que tu as déjà investi moins cher, tu as déjà valorisé ton investissement. Et c'est le cas là sur une des 4 dans lesquelles on a investi, où en fait, on a investi le 25 août. Et le 31 août, ils faisaient leur pitch, leur Demo Day. Et là, ils ont continué à lever. Et donc, entre le 25 août et la première semaine de septembre, eh ben, ils ont multiplié par 2 leur valorisation. Et donc, nous, on a multiplié par 2 notre argent investi en une semaine sans rien faire. Sur le papier, hein, on n'a pas récupéré notre argent. Mais sur le papier, tout l'argent qu'on a investi, bah, ça y est, il a déjà doublé de valeur. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de le faire avant. Donc, 4 investissements. Oui, pardon, vas-y.
Comment t'expliques ça ? Ils s'étaient mal valorisés avant avec toi ou ils sont survalorisés après ?
Alors non, ils ne se sont pas mal valorisés. Ça, c'est sûr que non. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont survalorisés après ? Oui, on peut presque le dire. Disons que le YC, c'est les numéros 1 du monde entier. Hein, c'est ce que je m'amuse à dire. Moi, tu sais, j'ai commencé à investir il y a 4 ans et j'ai vraiment évolué. Au début, on n'investissait qu'en France. Puis après, je me suis mis à investir qu'aux États-Unis, mais pas au YC. Puis après, c'était un petit peu au YC. Et puis maintenant que j'ai que mes accès, j'investis quasi exclusivement au YC. Et donc aujourd'hui, je dis, bah, à moins d'aller chercher des startups sur Mars, je ne peux pas trouver des meilleures startups au monde, sur Terre. C'est les meilleures startups. Tu ne peux pas faire mieux. C'est le number one incontestable. Et donc, par conséquent, y a quand même de la hype autour de ça. Et donc, il y a quand même trop d'offres. Une autre startup dans laquelle on a investi, ils ont levé 3 millions et ils ont eu 6 millions de term sheets et d'offres. Et donc, ils ont fait x2 oversubscribe, ils ont été obligés de refuser la moitié. Parce qu'il y a la hype, parce que tout le monde veut y aller, parce qu'il y a énormément d'argent dans l'écosystème en ce moment, hein, ça tout le monde le sait. Ce n'est pas que dans les cryptos, dans les startups aussi, il y a vraiment énormément, énormément d'argent.
Et, l'argent des cryptos, il vient de quelque part. Hein, donc,
ouais, effectivement. Voilà. Et si tu veux, c'est un peu le point central, le point focal de toute l'attention de la communauté startup quasiment mondiale, parce qu'encore une fois, c'est le meilleur incubateur au monde. Donc c'est assez hypé, ça c'est vrai. Mais en même temps, dans la notion de hype, il y a une notion de « c'est pas mérité ». Et moi, je trouve qu'avec le YC, c'est mérité. Donc, il y a beaucoup de hype, ils sont survalorisés, mais c'est des boîtes qui ont tellement de succès après. Un exemple là, qui est paru récemment et dans laquelle j'avais eu la chance d'investir, c'est Jeeves, donc une boîte qui a fait le YC l'année dernière. Et en moins d'un an après être sorti du YC, ils atteignent une valorisation de 500 millions de dollars, un demi-milliard, en moins d'un an. Donc, c'est quasiment du jamais vu, à part peut-être Clubhouse. Et encore, Jeeves, ils gagnent de l'argent, évidemment, parce que Clubhouse, ils n'en gagnent pas. Donc, si tu veux, c'est tellement les meilleures boîtes du monde. Et c'est un espèce de système auto-renforçant. C'est-à-dire que comme c'est les plus réputés, bah, ils attirent les meilleurs entrepreneurs. Ils sont coachés par des gars très bons. Quand tu es coaché par le fondateur de Airbnb, de Stripe, c'est pas dégueu. Et ben, du coup, ils ont le meilleur coaching qui fait qu'ils ont encore du coup, les meilleures boîtes en sortant, etc. etc. Donc, c'est un cercle vertueux. Donc, pour moi, oui, il y a une hype. Et c'est pour ça que c'est valorisé hyper cher, etc. Mais en même temps, cette hype, elle est pour moi méritée. Et ce n'est pas une hype comme on dirait, c'est du vent, c'est des conneries, etc. etc. Mmh. Voilà, alors les quatre boîtes dans lesquelles j'ai investi. Donc, les quatre en août, je précise que d'habitude, on fait un, deux deals max par mois. Mais là, comme c'était le YC, on a charbonné. Et puis, on n'en avait pas fait en juillet parce que je n'avais pas encore trouvé les bonnes boîtes. En juillet, ça avait déjà commencé. Je parlais déjà à des fondateurs du YC. Mais je n'avais pas trouvé les bonnes boîtes. Et je m'étais dit, bah, c'est pas grave, je me réserve pour juillet. Et puis, on va essayer d'en refaire là quelques-unes en septembre. Au moment où on parle, le 9 septembre, il n'y en a pas encore pour septembre. Donc, en août, on en a fait quatre. Et on en a fait deux au Mexique, une en Inde et une aux États-Unis. Donc, tu vois que géographiquement, on est vraiment dans cette tendance du YC, mais eux-mêmes, ils ont proposé tellement de boîtes de ces pays-là. Et je précise que ça reste des investissements de la Silicon Valley, puisque c'est des boîtes créées et qui juridiquement aux États-Unis, ce qui est, nous, un peu plus rassurant, et qui sont incubées par le Y Combinator dans la Silicon Valley. Donc, c'est des boîtes de la Silicon Valley. La Silicon Valley est en train de se répartir dans le cloud. La Silicon Valley va dans le cloud. Voilà. C'est le sujet d'une vidéo YouTube que je prépare. Voilà, pour comment la Silicon Valley va dans le cloud. Et c'est le cas aussi pour moi. Moi, je suis à Paris, mais je me considère tout à fait comme dans la Silicon Valley, même si physiquement, j'y suis pas. En tout cas, pas tout le temps. Donc, deux boîtes mexicaines, une indienne, une américaine. La première, c'est une boîte mexicaine qui s'appelle Siglo, S-I-G-L-O. C'est une boîte qui ressemble à une autre boîte dans laquelle on avait investi il y a 3 ans avec Leonis, une boîte qui faisait exactement la même chose, mais en Californie. Eux, ils font la même chose au Mexique. L'idée est très simple, c'est d'amener la fibre optique au pied d'un immeuble.
Il en aura bien besoin. Là.
Ouais, François, il aura bien. Exactement. François, c'est pour toi. C'est bon.
Vous m'entendez mal, c'est ça?
Non, c'est parce que la caméra vient de se couper.
Au moment où je parle de ma caméra capricieuse.
Voilà. Donc, ils amènent la fibre optique au pied d'un immeuble et ils la font monter jusqu'au dernier étage. Et sur le toit, ils mettent une grosse antenne émettrice. Et ensuite, cette antenne, elle va pouvoir émettre à 1 km à la ronde, donc dans un rayon d'un kilomètre, ce qui fait un peu plus de 3 km carrés. Émettre, en fait, Internet extrêmement rapide dans les maisons qui habitent autour. Et donc, il faut installer une seule fois une grosse antenne. Et ensuite, pour un particulier, pour se relier, il faut juste installer une toute petite antenne réceptrice, mais qui coûte 100 $ et qu'en fait, le fournisseur d'accès t'offre. Donc, tu t'abonnes. On vient t'installer chez toi une petite antenne réceptrice et avec ça, tu as un Internet rapide équivalent fibre, puisque c'est courte distance, ça fait un débit de fibre optique, pour pas cher, pour beaucoup moins cher que les concurrents. Donc, la boîte qui fait ça, dans laquelle on avait investi en 2018 aux États-Unis, s'appelle Sail Internet. Ils ont cartonné puisqu'ils ont, maintenant rentré dans le giron d'une grosse boîte de private equity qui investit chez eux et qui veut les emmener jusqu'à l'IPO. Et eux, ils font ça au Mexique où c'est encore plus, où il y a un besoin absolument énorme parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, parce que les structures existantes, enfin les boîtes existantes qui sont les grosses compagnies telco proposent un service médiocre et très cher. Donc pour la plupart, les Mexicains, il y a encore une classe moyenne énorme qui n'ont pas les moyens de se payer $50 par mois un abonnement à Internet. Eux, ils proposent un truc avec un paiement à la semaine, hyper flexible, et la moitié du prix pour un Internet illimité. Et donc, pour l'instant, ils sont à Mexico City, dans les banlieues un peu populaires, et ça cartonne, ils ont une croissance de dingue. Donc ça, c'est la première, ça s'appelle Siglo. Okay.
C'est drôle, j'ai vu plusieurs boîtes comme ça. Bah, il y a Starlink aussi maintenant aussi qui cartonne beaucoup. Je vois beaucoup sur TikTok.
Mais à 90$ par mois, donc ce n'est pas la même cible. Hein.
Ouais, non, c'est rush. Et je vois, moi, je suis beaucoup sur TikTok. Et là, je ne sais pas depuis quelques semaines, je ne sais pas si c'est passé un truc ou quoi, mais j'arrête pas de voir des Américains qui installent Starlink. Et donc, ils reçoivent la box, ils unbox, ils montrent comment ça marche et tout. En plus, ils sont fiers de leur antenne parce qu'apparemment, elle est stylée. Genre. C'est un gadget, quoi, le truc. Donc, c'est drôle. Mais
Starlink, okay, c'est génial. Okay. Moi, j'adorerais. En fait, à la base, moi, je voulais m'inscrire parce que je voyage énormément et j'ai toujours des connexions Internet pourries là où je suis. Donc, je m'étais dit, bah, je me prends mon Starlink, je suis connecté directement au satellite. C'est la folie. En fait, quand tu t'abonnes, c'est un lieu fixe. Tu ne peux pas bouger. Si tu vas ailleurs et que tu l'emmènes avec toi, elle ne fonctionne plus. Voilà. Mais en France, enfin, tu vois, moi, j'habite à Paris. Ce n'est pas un problème parce qu'on a la fibre. Mm-hmm. C'est plus un problème pour des territoires très grands comme les États-Unis. Mais ça peut être un jour peut-être le Canada, l'Inde, la Chine. Parce que c'est difficile de mapper le territoire. Parce que la fibre, bah, c'est des câbles qui passent, qu'on fout sous le sol, quoi. Donc, c'est sûr que c'est plus intéressant. Et de même, au Mexique, faut savoir qu'on est très chanceux en France. Hein, la fibre, ça a été subventionné à coût de milliards par l'État. Mais tu vois, au Mexique, bah, personne a creusé pour amener la fibre, même à Mexico City, qui est la capitale. Donc, ils ont encore un Internet un peu pourri. Voilà. Donc, ça, c'est la première mexicaine. La deuxième est aussi mexicaine et elle est tout à fait dans le thème que j'évoquais tout à l'heure des microcrédits. Donc, c'est une app qui s'appelle Baobap, B-A-U-B-A-P, Baobap, et qui fait donc…
B-A-U-B-A-P,
Baobap.
Ok.
Je vérifie que je t'ai pas dit de conneries. Non, c'est ça, baobap.com. C'est comme ça que ça s'écrit. Donc, c'est du micro-prêt. Jusqu'à en $100 de moyenne et jusqu'à $250 au Mexique, quasi instantanément, si tu as besoin d'un peu d'argent pour finir le mois, eh ben on te prête de l'argent. Ce qui est extraordinaire avec cette boîte, il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes, mais le plus intéressant, c'est leur algorithme de prêt. En fait, quand tu es une boîte que tu prêtes de l'argent, ton cœur de métier, c'est décider à qui tu prêtes, à qui tu prêtes pas. Mmh. À la fois, tu as envie de prêter au plus de monde possible parce que tu gagnes de l'argent sur les taux d'intérêt quand les gens remboursent, mais à la fois, tu veux pas prêter à des gens qui vont pas te rembourser, sinon ça te fait un défaut et tu as l'air con et tu perds de l'argent. Donc, c'est un vrai sujet. Eux, ils ont développé une techno hyper novatrice où en fait, 99% des boîtes, elles vont se baser sur ton compte bancaire, ton historique bancaire, éventuellement ton credit score. Donc, ton credit score, c'est y a une centralisation de tous tes prêts aux États-Unis, c'est pareil au Mexique. Et finalement, eh ben, cette boîte-là, Baobab, il ne se base pas là-dessus. Il ne te demande pas ton compte bancaire, pas ton credit score. Donc, c'est super intéressant pour beaucoup de gens. Ça va plus vite, tu n'as pas besoin de te connecter. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas connecter leur compte bancaire, notion de sécurité, etc. Eux, ils te demandent accès aux data de ton téléphone. Donc, c'est complètement anonymisé. D'accord, c'est compatible RGPD, même s'il n'y a pas de RGPD au Mexique, mais tout est compatible avec ça. Mais ils te demandent accès à tout ton téléphone. Donc, ils vont avoir accès à ta géolocalisation, à tes SMS, à tes emails, à vraiment tout ce que tu vas avoir sur ton téléphone. Et en fait, avec ça, ils arrivent à déterminer qui tu es et s'ils vont te prêter ou pas. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils ont des meilleurs résultats que tous les concurrents qui font avec le compte bancaire et le credit score.
Scoring traditionnel, donc, quoi. Ouais.
Voilà, ils ont un meilleur résultat alors que ça pourrait paraître moins fiable. Et comment ils le mesurent? Ils le mesurent en taux de recollection, c'est-à-dire quand ils prêtent, quel est le pourcentage des gens qui remboursent. Ouais. Et en fait, ils ont moins de la moitié des défauts de tous les concurrents de la place. Et ils sont à un niveau de défaut comparable aux banques traditionnelles qui prêtent sur les cartes de crédit et qui ont des moyens considérables derrière pour te mettre de la pression, etc., pour récupérer leur argent. Et c'est la seule qui a ce taux de défaut aussi bas. Donc, c'est assez impressionnant. J'étais très, très impressionné. Et ils font un volume de dingue. Je crois qu'ils prêtent plus de $300,000 par mois. Donc, ce n'est pas une petite boîte. C'est déjà énorme là-bas. Et voilà, c'est hyper impressionnant et ça a une croissance complètement folle. Ouais, vas-y.
Ils t'ont juste dit qu'ils se pluguaient au téléphone. Est-ce qu'ils t'ont donné, tu n'es pas obligé de les donner, mais est-ce qu'ils t'ont donné des paramètres un peu plus précis sur qu'est-ce qu'ils scannent réellement ou c'était juste le pitch deck en mode bon, notre algo, il est ouf, on a des meilleurs résultats, mais on ne dit pas trop notre sauce secrète. Parce que souvent, moi, j'avais essayé de faire une boîte dans le crédit pour le coup et le scoring est ultra important, comme tu l'as dit. Et en général, quand tu te maques avec une banque, elle regarde c'est quoi ton modèle de scoring. Tu as des modèles de scoring traditionnels, tu l'as dit, des API pour plugger le compte bancaire, tu regardes est-ce qu'il y a eu des retraits qui ne sont pas passés, est-ce que la personne elle est souvent dans le rouge, elle fait quoi comme type de dépenses, tout ça tu peux analyser. Et très souvent, la banque elle aussi, elle a son propre modèle de scoring. Donc, en fait, il y a un double scoring. Scoring chez toi, le dossier passe à la banque partenaire et la banque partenaire, elle, elle rescore par-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? C'est oui, est-ce qu'eux, eux, ils t'ont dit notre scoring, c'est quoi notre sauce secrète ou pas?
Ouais, il m'en a parlé. Pas. Alors, je suis pas rentré à fond dans le détail, etc. Et pour plusieurs raisons. Mais il m'en a parlé effectivement. Et c'est effectivement, en fait, il va analyser les comportements et à partir de la localisation. Et après, il lit tous les emails. Donc, en fait, à partir des emails, tu peux vraiment connaître la vie de quelqu'un. Et moi, ça m'a fait halluciner parce que je dis, mais les gens, ils te donnent leur email. Et il me dit oui, parce que tout est anonymisé, d'une part. Et d'autre part, c'est des gens qui sont un peu en galère, ils ont besoin d'argent. Donc, après, il y a eu des discussions dans le club Léonis Investissement. Il y a eu des discussions sur est-ce que c'est éthique ou pas de demander aux gens de, entre guillemets, baisser leur froc, de te donner toute leur data. Mais encore une fois, c'est anonymisé. Et en plus, si tu n'obtiens pas le crédit, tu peux en un clic effacer tes data. Et ils effacent tout, ils ne conservent rien. Donc, dans l'ensemble, le truc est à peu près clean. Mais donc, effectivement, avec les mails, tu peux vraiment rentrer dans la vie des gens, plus géolocalisation, etc. Mais il y a plusieurs choses qui m'ont hyper rassuré en me disant, même si je n'ai pas le détail de comment ça fonctionne, d'une part, ils prêtent des centaines de milliers de dollars et ils ont ce taux qu'ils arrivent à maintenir depuis des mois de recollecte. Donc, je sais que leur algo, il est bon. Si tu veux, on dit « proof is in the pudding », quoi. La preuve est là, c'est que ça marche. D'une part. Et d'autre part, effectivement, ils ont réussi à sécuriser des prêts bancaires, ce qui est pour moi hyper, hyper, hyper important, parce qu'il y a énormément de boîtes du YC qui te disent on va faire ci, on va faire ça, mais est-ce qu'il y a une banque qui t'a prêté de l'argent pour que tu le prêtes? Et ils ont sécurisé 4 millions de l'une des plus grosses banques mexicaines. Et donc, je peux te dire qu'eux, avant de lâcher 4 millions, évidemment, ils ont à fond audité le truc.
Non, clairement, ça, c'est le truc, voilà. C'est que si la banque, elle fait un partenariat avec toi, c'est qu'elle a poncé, reponcé, reponcé ton modèle de scoring et c'est qu'elle te. Elle a
les et moi, ça me valide. Voilà, moi, ça me valide le truc derrière en disant si la banque y va, et je sais que les banques sont quand même frileuses là-dessus, le métier des banques, c'est pas de prendre du risque, on le sait bien. Donc, si la banque y va, c'est qu'il n'y a pas de problème, l'algo il tient la route. Donc, c'était pour moi un élément hyper important pour décider d'investir, évidemment.
Eh bien, propre.
Voilà.
Et donc là, typiquement, c'est une boîte, c'est une fintech qui sont un fair advantage. C'est la tech, c'est pas le marketing, c'est pas le branding, c'est pas.
C'est les deux. Il y a plusieurs unfair advantage. Il y a effectivement la tech, de dire on a ce truc-là. Il y a aussi le branding parce qu'ils ont une image de marque incroyable sur place. Ils m'ont raconté des trucs de fou, mais là pendant le Covid, ils ont maintenu un taux hyper élevé et ils ne comprenaient pas pourquoi. Et ils ont contacté leurs utilisateurs en disant mais attendez les gars, vous avez perdu votre travail. Pourquoi vous nous remboursez quoi? C'est quoi le délire? Et en fait, les utilisateurs répondaient en fait, on est tellement bien traité chez Baobab, on aime tellement ce que vous faites qu'on vous a remboursé vous en premier plutôt que les autres applis. Parce que par exemple, c'est les seuls. Et c'est encore un truc de fou, qui arrive à avoir un taux de remboursement aussi élevé. Et ils n'ont pas de salariés qui font la recollection. Tous les concurrents, y compris les fintech, etc., ils ont des salariés qui appellent dès que ça ne paye pas en disant « Ouais, vous nous devez de l'argent, rappelez, etc. » Et eux, non.
Tu as même des boîtes d'outsourcing en France.
Bien sûr.
Ça pour toi.
Ouais, carrément. Et donc, c'est hyper désagréable pour le client de se faire un peu harceler au téléphone en mode « Tu nous donnes de l'argent. » Et eux, ils ne le font pas. Et donc, les clients adorent. Donc, ils ont une super image de marque. Ils ont cette techno. Et puis, un autre truc, c'est qu'ils ont fait le YC. Donc, il y a d'autres boîtes du YC au Mexique qui sont en concurrence, mais toutes les boîtes mexicaines qui n'ont pas fait le YC, ils auront moins d'argent pour se développer, parce que quand tu fais le YC, c'est toujours pareil. Hein, on en parlait hier soir, Jedi, à notre dîner. Tu fais le YC, tu sors, c'est 2 millions minimum, quasiment cadeau. Tu n'as quasiment pas besoin de travailler et il y a trop d'investisseurs qui veulent te donner de l'argent. Donc, c'est hallucinant. Donc, ça fait quand même… Et ça, c'est que la première. Tu continues après à avoir plus de moyens pour te développer. Et puis, tout ce qu'ils ont appris en marketing, encore une fois, quand tu es coaché par le fondateur des Airbnb, de Stripe. Donc, ça leur donne un avantage énorme au Mexique sur ce marché. C'est aussi une raison de plus pour laquelle j'aime investir en Latam en Inde. C'est que ces quelques boîtes qui font le YC ont un avantage énorme par rapport à toutes les boîtes locales qui ne font pas le YC pour ces raisons-là. Voilà. Et pour la petite histoire, ils ont doublé… Durant les 3 mois du YC, ils ont doublé en volume. Donc, tu vois, en termes de traction, ultra solide, quoi.
Putain, tu vas me rendre jaloux de ne pas avoir investi dans Léonis, là.
Écoute, c'est le but, hein. Je suis un là que pour te rendre jaloux. C'est vraiment le but. C'est vraiment le but. Voilà. Non, mais ouais, c'est une très belle, très, très belle histoire. Et si tu vois, s'ils continuent à doubler tous les 3 mois, ouais, mais ça va faire encore une belle boîte. Alors, j'enchaîne sur la troisième. Ah non, François, tu as une question, vas-y.
Ouais, juste petite intervention. Je trouve ça super intéressant. Et quelque part, tu dis que ça paraissait contradictoire, enfin que c'est surprenant de voir qu'ils ont des meilleurs résultats et donc qu'ils prêtent mieux aux gens que la plupart de leurs concurrents. Mais quelque part, je suis pas tellement étonné que ça, mais étant donné que finalement, s'ils ont accès à la vie réelle des gens via leur téléphone, ils ont accès à un meilleur proxy. C'est le meilleur proxy qu'ils peuvent avoir pour savoir s'ils peuvent investir ou pas, comparé à une fiche de salaire ou je ne sais pas trop exactement ce que les concurrents demandent, qui sont des proxys qui n'ont pas la même valeur. En tout cas, voilà, ça, c'est super intéressant. Mais par contre, j'avoue que je n'ai pas compris l'argument du marketing parce que tu es passé chez YC. Je ne vois pas comment le fondateur de Airbnb peut aider un mec en LATAM à faire du marketing, sachant que c'est, une fois de plus, c'est un continent différent, une culture qui doit être à l'opposé de celle que le mec, que Brian Chesky connaît ou a expérimenté personnellement. Après, peut-être que tu veux parler plus de stratégie vraiment, vraiment, vraiment macro. En mode
c'est un ensemble.
Commencer
c'est
par faire ensemble. Du paid, ouais. etc.
Il y a de la stratégie macro et il y a aussi de la stratégie micro. Par exemple, en LATAM, le YC, ils ont Rappi. Je ne sais pas si tu connais, c'est la plus grosse licorne de LATAM. Ils ont fait le YC. C'est un peu le Uber Eats.
Connexion,
enfin,
Uber, là. Okay, voilà,
Rappi. Et donc, eux, si tu veux, en développement B2C, Rappi, le mec, il vient aussi, hein, le fondateur. Ils viennent tous. Ils sont tous comme ça, copains comme cochons, comme on dit. Et donc, ils passent vraiment du temps à coacher. Donc, effectivement, je dis le patron d'Airbnb de Stripe, c'est pour imager, parce que tout le monde connaît. Mais le gars de la TAM, on le file avec Rappi. Ce qui est important, enfin, si tu veux, ce que j'ai remarqué avec YC, c'est que c'est des brutes en marketing. C'est des gens où tu fais YC, on va t'apprendre du marketing hyper agressif pour grossir hyper vite. Et en parallèle de ça, tu vas être capable de capter beaucoup de fonds d'investisseurs. Et donc, c'est l'alchimie parfaite. Tu as beaucoup d'argent, tu vas pouvoir dépenser beaucoup en marketing, mais pas cramer de l'argent bêtement, évidemment, mais vraiment dépenser sur des trucs à impact où le mec de Rappi va t'expliquer, bah voilà, moi, comment j'ai fait au Mexique pour grossir, etc. etc. Donc, c'est pour ça que YC, c'est pour moi la formule magique. C'est que c'est la rencontre de ça. Et c'est vraiment là où ils sont le meilleur, c'est en marketing. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils prennent des développeurs. Ils disent, bah, on va prendre des geeks, on va leur apprendre le marketing et leur donner beaucoup d'argent. Bah, une fois que tu as des codeurs, beaucoup de marketing, beaucoup d'argent, ça ne peut que bien se passer. Et c'est pour ça que le YC, ils sont au-dessus. Toutes les boîtes sont toujours au-dessus, tu vois. Et c'est vraiment ça pour moi, la formule magique.
J'avais interprété sensu stricto. Je pensais vraiment que Brian Chesky allait donner les conseils.
Brian Chesky, il vient en personne, hein, pour te dire. Donc, c'est la vérité. Brian Chesky, il vient en personne à chaque batch. C'est pour ça, c'est quand même ouf de dire le mec, il a pas que ça à faire, tu vois, mais il vient. Ouais. Et je pense que quand, par exemple, là, ils l'ont dit là, au début du démo day, Michael Cibel, il a dit que Brian Chesky, il était venu et qu'il n'avait pas donné le même talk que d'habitude. Il avait dit comment Airbnb a pivoté pendant le Covid. Bah, comment Airbnb a pivoté pendant le Covid, un talk de 2 heures là-dessus, même si tu es un mec en LATAM, je suis sûr que tu apprends des trucs. C'est obligé, tu vois. Voilà. Donc quand même intéressant. Et effectivement, c'est aussi des groupes de travail entre eux. C'est vachement bien parce qu'ils se mettent en groupe, par exemple, Mexique. Ils ont même au Mexique, ils ont des mafias. Genre, il y a la mafia Mexico City, la mafia Monterrey, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de boîtes à Monterrey. Donc, ils sont tous ensemble sur un WhatsApp. Et tu vois, ils s'aident. C'est hyper bienveillant. Et t'imagines, déjà, quand tu es deux founders, deux associés, tu as des idées dans tous les sens. Mais là, tu es dans un truc avec 10 équipes. Tu sais exactement qui fait quoi, comment ça… les mecs, ils disent, mais moi, je fais ça, ça fonctionne. Par exemple, Siglo, la première boîte dont je te parlais, eux, ils ont trouvé que pour vendre un accès à Internet, il ne fallait pas faire de la pub en ligne, etc. Parce que c'est des mecs qui n'ont pas Internet. Ça semble assez logique. Et ils vont sur les marchés, sur les mercados au Mexique avec le T-shirt. Et ça rassure les gens de les voir physiquement. Et à force de les voir toutes les semaines, ils créent un lien et tout. Et tu vois, c'est un espèce de gros hack… vraiment comme dans les livres de gros hacking, quoi, mais ça cartonne, c'est hyper rentable pour eux. Et bah, une fois que ces mecs-là, ils ont compris, bah, ils en parlent à tout le monde. Et bah, demain, qu'est-ce qu'il dit qu'il n'y aura pas un autre gars qui va faire pareil, etc. Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai mis en contact Siglo et Baobab. Comme ça, si le mec, il n'a pas d'argent pour payer son internet, bah, on lui fait un petit prêt sur Baobab, il peut payer son abonnement. Voilà.
Nice. Les boucles.
Voilà, j'aime bien faire des contacts comme ça entre mes fondateurs. Je leur dis, les gars, j'ai investi chez vous tous les deux, bossez ensemble. Quoi. Voilà. Ça, c'est très cool.
Propre.
Voilà.
Est-ce que tu as déjà été invité par un des founders aux US à un dîner ou quoi, ou la relation, elle est encore, c'est quoi, une relation purement transactionnelle?
Ou tu as pu aller un peu plus loin,
faire la teuf avec un founder ou autre?
Ouais. Dès que j'y suis, on se voit. C'est pas la teuf en général, c'est plus, tu vois, on se voit, on boit un café, on boit un verre. Est-ce que j'ai déjà fait la teuf avec un founder? Je suis pas sûr. Il y a quand même une distance. Si tu veux, ils se disent, je pense que c'est plus de sa part. Moi, je serais trop OK, tu vois, pour aller faire la teuf. Mais lui, il se dit, bah, il m'a confié 800 000 balles. Si je lui montre qu'en fait, je me la colle le mardi soir, c'est pas terrible, tu vois. Mais par contre, ouais, je suis invité tout le temps à des événements physiques. Dès qu'ils font un truc, ils m'invitent. Bon, quand c'est aux US et que je suis à Paris, j'y vais pas. Mais dès que moi, je suis aux US, j'y vais pour les. Je vais les voir, les rencontrer régulièrement. Y a des mecs qui m'accueillent chez eux, il y a des mecs qui m'accueillent dans leur bureau. Bien sûr, on crée un lien, on crée un vrai lien, quoi. Ouais. Alors là, j'ai pas été aux US depuis un an et demi, hein, forcément. Donc tous les derniers investissements, voilà. Mais tu vois, j'ai fait un investissement en Inde. Et pareil, la nana, elle m'a invité, elle me dit, mais mes parents, ils ont une chambre d'hôte, viens nous voir. J'ai trop envie de, tu vois. Et je lui dis, mais putain, mais moi, qu'est-ce que je vais aller foutre en Inde, tu vois, juste pour te rencontrer. Mais voilà, non, non, au contraire, bien sûr, la relation, elle est super, je sais pas comment dire, chaleureuse, parce que voilà, on croit ensemble au même truc, on a les mêmes convictions, si tu veux, donc voilà, on se soutient et ouais.
Ok. Je sais pas si tu as, il est quelle heure là, il est 17h16 et je pense que tu n'avais pas un rendez-vous après.
Non, j'ai un rendez-vous à 18h, mais si on a, donc on a encore trois quarts d'heure, ce qui fait pas mal.
Oh, on a encore un peu le temps.
Et si on n'a pas fini, je le décalerai, il n'y a pas de problème. Priorité aujourd'hui à FarmSpot.
Vas-y, je suis encore curieux, fais-nous découvrir d'autres boîtes là, je suis curieux. On a déjà appris quelques trucs là, honnêtement, j'aime bien, vas-y, continue.
Alors, je te parle de la troisième boîte dans laquelle on a investi. C'est une boîte américaine qui s'appelle Maru, M-A-R-O-O. Est-ce que vous avez entendu parler, j'imagine, du Buy Now, Pay Later, qui est la grosse tendance américaine, donc qu'on appelle le BNPL, Buy Now, Pay Later. Donc, l'idée est toute simple. Hein. Aux États-Unis, si vous, il n'y a pas trop le paiement plusieurs fois. Si vous voulez acheter un truc cher, vous le mettez sur votre carte de crédit, votre credit card, et vous avez des taux d'intérêt de bâtard, hein, on va dire, pardonnez l'expression, mais c'est vraiment adapté parce que c'est tellement horrible. C'est des taux d'intérêt, en général, entre 18% et 35% parfois de taux d'intérêt. Donc, c'est quand même hallucinant, même pour un mec qui est cadre, qui a un bon salaire, 35% de taux d'intérêt, c'est complètement…
Et eux, c'est 0%, c'est ça ?
Complètement dingue. Et donc, ouais, alors le buy now pay later au sens large, c'est l'idée, donc la plus grosse boîte là-dessus, c'est Affirm, qui est en bourse maintenant, c'est le buy now pay later pour un peu tout et n'importe quoi. Leur plus gros client, c'est Peloton. Donc Peloton, vous savez, c'est le fameux truc at home, là, connecté, le vélo connecté. Un vélo Peloton, ça coûte, je crois, $4,000 de tête. Et donc, bah, y a beaucoup de gens qui ne veulent pas le payer cash. Ils veulent le payer en, je sais pas quoi, 10 fois sans frais. Et donc, Peloton représente à lui tout seul, je crois, 40% du volume de Affirm, ce qui est assez ouf d'ailleurs comme dépendance de clients.
Là, je suis sur donc, le site de Maru, là, je sais ce que tu vas dire, j'aime bien, vas-y, continue.
Ouais, ça c'est l'intro. Et donc, c'est du paiement en plusieurs fois, mais sans, avec 0% de taux d'intérêt en général, ou avec un taux d'intérêt très faible qui peut être supporté par le marchand, etc. etc. Donc, ils sont un peu en train de disrupter toutes ces boîtes, le marché des cartes de crédit. Et donc, Maru, toujours boîte du Y Combinator, de ce batch en cours, hein, évidemment, comme toutes les autres, c'est le Buy Now, Pay Later pour l'industrie du mariage. Ouais. Donc, l'industrie du mariage aux États-Unis, c'est une industrie de 95 milliards. C'est absolument énorme. C'est beaucoup plus gros qu'en Europe. Tous les Américains qui se marient, ils font une énorme teuf, comme on voit dans les films, etc., etc. Et ils claquent à fond. C'est vraiment un truc d'apparence un peu à la Hollywood, etc. Et 75% des Américains qui se marient s'endettent. Parce que se marier, ça coûte très cher, d'autant plus si on veut faire une grosse teuf. 75% des Américains s'endettent et donc s'endettent sur leur carte de crédit avec des taux de 18 à 35%. Et donc, Maru, c'est le buy now, pay later de l'industrie du mariage. Il y a plusieurs choses qui sont hyper intéressantes, mais notamment, ce qui m'a... François, tu as une question, vas-y, tu voulais réagir ?
Ouais, ah, moi, j'ai un truc. Tu sais, j'ai parlé, je ne sais pas si tu écoutais Gab, l'épisode avec Shein, où je fais le breakdown de
Shein.
Ouais,
bien sûr, j'ai écouté. Ouais.
Et tu vois que la boîte, les fondateurs de Shein, leur premier business, c'était de vendre des robes de mariée aux US, fabriquées en Chine, mais vendues aux US, parce qu'apparemment, c'est un marché gigantesque, les robes de mariée. Et vas-y, continue. Mais c'est drôle.
Et j'adore Shein, d'ailleurs. Et depuis que j'ai écouté le podcast, je vais aussi en faire une vidéo YouTube inspirée par ce que tu as. Donc voilà, enfin, je n'ai pas encore pris le temps de la faire, mais il faut absolument que j'en fasse une vidéo YouTube parce que c'est vraiment passionnant. Donc, eux, ils ont commencé en B2C en disant financez votre mariage en plusieurs fois. Et en fait, ils ont pivoté. Maintenant, ils travaillent en B2B. Et ce qui est énorme, c'est la flywheel qu'ils ont mis en place. Donc la flywheel, ça vous parle. Hein, c'est comme la flywheel d'Amazon. Toujours un meilleur service client fait que les clients sont satisfaits, qu'ils commanderont toujours plus, ce qui fait que ça attirera toujours plus de vendeurs, qu'il y aura toujours plus d'offres et que donc il y aura toujours plus de clients et ça s'auto-renforce comme ça, c'est la flywheel. Et donc la flywheel de Maru, ils sont en B2B, donc leurs clients, c'est les prestataires de mariage. Donc les plus gros postes, c'est les venues, donc les lieux de réception, les traiteurs, ça c'est les deux plus gros postes. Et puis après, on a le photographe, le fleuriste, tous les trucs de mariage, éventuellement la robe, etc. Donc ils disent à ces gens-là, soyez payés à 100% dès le jour 1, plutôt que de proposer à vos clients d'étaler les paiements ou de vous payer en plusieurs fois, etc. Vous êtes payé à 100% au jour 1. Donc, quand quelqu'un veut se marier, il dit voilà, bah, coucou, ah, on a vu ce lieu de réception, il est super, mais ça coûte hyper cher, hein, un domaine de mariage. Ça peut coûter 10 000, 20 000, 30 000 dollars juste pour une journée. Hein. Donc, on parle de sommes quand même importantes. Et bah, il dit ah, bah, pas de problème, si vous voulez, vous pouvez payer en plusieurs fois, on utilise Maru, nous on est payé tout de suite, donc on est ravis, et vous payez en 10 fois sans frais, c'est gratuit. Alors, Maru prend une commission de 10% auprès du prestataire B2B. Donc, il dit, bah, vous êtes payé cash tout de suite, mais on vous file 90% de la somme. C'est des trucs classiques. C'est comme la facturage. En fait, la facturage, ça existe depuis la nuit des temps. C'est, tu as une facture qui te sera payée dans 6 mois. Bah, tu revends ta facture, tu touches l'argent tout de suite, mais tu touches un petit peu moins pour qu'on t'avance le cash. Donc, les prestataires, ils sont ravis de payer, d'avoir 10% de moins pour avoir l'argent tout de suite. Donc, ils disent… c'est le prestataire B2B qui va dire au couple qui se marie, bah, ok, vous n'avez qu'à utiliser Maru. Donc le couple découvre Maru et ils vont faire une simulation du crédit qu'ils peuvent avoir. Et en général, la facture moyenne, ça va être 4 000 dollars, la facture moyenne d'un prestataire de mariage. Alors, je ne compte pas le lieu, parce que ça peut être plus, 10 000, 20 000, mais si tu prends un traiteur, par exemple, ça peut être 5 000 dollars, par exemple. Donc, il dit, bah, vous voulez nous payer 5 000 dollars, allez utiliser Maru. Ils vont sur Maru faire la simulation et Maru leur dit, bah, vous avez le droit à 20 000 dollars de prêt. Qui disent très bien, ils vont filer les 5 000 dollars à ce prestataire-là et ensuite, ils vont aller voir tous leurs autres prestataires qui ne sont pas sur Maru et ils leur disent, bah, attendez, moi, j'ai encore 15 000 qui me reste de facilité de paiement, est-ce que vous ne voulez pas accepter Maru comme moyen de paiement? Comme ça, vous touchez le cash tout de suite. Certains des prestataires disent oui et boum, automatiquement, ça devient les clients de Maru sans qu'ils aient eu besoin de travailler. Et à leur tour, quand ces nouveaux prestataires auront des nouveaux couples de mariés qui viendront les voir, ils leur diront, bah, vous n'avez qu'à utiliser Maru et ça s'amplifie comme ça en mode flywheel. Donc, ils n'ont aucun marketing à faire. C'est du pur effet de viralité.
Bouche à oreille, ouais.
Voilà, bouche à oreille, effet de viralité. Et ça, j'ai trouvé ça énorme. Et donc, voilà, 10% de commission sur un marché à 95 milliards, ça fait que ils ont calculé, il m'a parlé des métriques, il m'a dit, mais pour faire 100 millions par an de revenus, pour faire 10 millions de revenus, pour être valorisé, si c'est ça, pour être une licorne, il faut qu'on fasse 100 millions par an. Donc, quand tu fais 100 millions, tu es valorisé 1 milliard, 10 fois les revenus. Pour faire 100 millions, il faut qu'on prête 1 milliard. Et si tu regardes le budget moyen d'un mariage, etc., tu te rends compte qu'il faut qu'il fasse, genre, je ne sais plus, 400 mariages par mois. Et tu te dis, 400 mariages par mois, c'est même pas… Tu vois, aujourd'hui, ils font déjà 20-30 mariages par mois. Donc, tu te dis, bah, il y a moyen d'y aller même en un an ou deux, quoi. C'est faisable. Assez chouette. Ouais.
Est-ce qu'il y a une saisonnalité du mariage?
Alors, oui. Ça, c'est un truc que j'ai adoré aussi. Il y a une saisonnalité du mariage, bien sûr. Les gens se marient au printemps. Enfin, ça va de, je sais pas quoi, avril à septembre, on va dire, à fin septembre. Mais par contre, il n'y a pas de saisonnalité de la préparation du mariage. C'est ça qui est génial. C'est que les gens utilisent Maru quand ils sont avec leur prestataire, quand ils préparent, quoi. Et ça, c'est juste énorme. On prépare toute l'année. Et donc, Maru, toute l'année, a des clients. Alors, il y a Jedi qui est connecté.
On est tous les deux là. On est tous les deux là.
Je suis là, je branche juste mon ordinateur, je ne l'avais pas branché.
Incroyable. Et François qui n'a pas de vidéo. Il n'y a que moi. Bienvenue sur Jedi Spot. C'est un podcast créé par Gabriel Jarosson uniquement. Vous êtes chez moi. Je fais ce que je veux. On ne parle jamais de crypto ici, c'est interdit. Bon, trop cool. Vous êtes là, parfait.
Ok, d'accord. La saisonnalité du mariage, ouais. Pas dans la programmation. Ok, d'accord. Ouais. C'est tout à fait logique. D'accord.
Donc, très cool. Et voilà, super boîte, super fondateur.
C'est quoi le profil des fondateurs?
Alors, il y a un gars, serial entrepreneur dans la finance. Donc, lui, tout l'aspect financier, buy now, pay later, etc. Et il s'est associé avec une nana qui travaillait chez The Knot. The Knot, c'est le plus gros média de mariage aux US. Mmh. C'est une boîte qui vaut 10 milliards. Et elle travaille donc une spécialiste de l'industrie du mariage et un spécialiste financier, donc parfaite complémentarité là-dessus. Donc la team est vraiment top. Et pour la petite histoire, ils ont failli avoir Gary Tan comme investisseur. Je sais pas si vous voyez qui est. Si, je suis sûr que vous voyez qui est Gary Tan.
C'est le gab américain quand même, non?
Exactement, voilà.
C'est ça, c'est ce que je disais. Très bonne inspiration pour ton contenu.
Ouais, on est les deux seuls et investisseurs dans la Silicon Valley et YouTubeurs. Il n'y a que nous deux. Et donc, voilà, ils ont fait un call avec Gary Tan. Donc, déjà, très cool. C'est Gary Tan qui les a contactés. Très, très cool. Finalement, il n'a pas mis sur ce tour parce qu'il ne restait pas assez. Il voulait mettre plus d'argent. Donc, quand Gary Tan y vient, il ne vient pas avec 10 000 balles, forcément. Mais du coup, ils restent en contact pour le prochain tour de table. Donc, peut-être que dans quelques mois, quand ils feront leur Série A, on aura Gary Tan. Il a le temps de changer d'avis, évidemment. Mais voilà, très, très sympa quand même d'avoir eu cette possibilité-là. Donc ça s'appelle Maru. On termine avec la quatrième.
Vas-y.
Et donc, on termine en Inde pour la quatrième. Donc, deux au Mexique, une aux US et la quatrième en Inde avec une boîte qui s'appelle Walrus. Donc, Walrus comme l'animal, W-A-L-R-U-S, walrus.club. Walrus, c'est la néobanque indienne des 18-25 ans. C'est la néobanque Instagram pour la génération Instagram. Donc, c'est vraiment l'équivalent, entre guillemets, du Robin Hood indien, dans le sens où c'est la néobanque cool, fun, pas prise de tête. D'ailleurs, ils se revendiquent non pas comme une banque, mais comme un club, d'où le nom walrus.club. Ils font tout leur marketing autour de « on est une communauté de jeunes ambitieux, venez nous rejoindre ». Et ils font des talks, ils font des conférences en mode bah, « vous êtes membre, vous êtes client Walrus, bah, venez, on a un super entrepreneur qui va venir vous parler de ses résultats, etc. » Ils sont aussi focus crypto, donc maintenant, ils ont des… forcément parce que c'est la néobanque des jeunes. François il est en mode putain c'est ouf, j'en peux plus.
Non, je viens de lire le Walrus Bitcoin, ça a l'air d'être leur monnaie, une monnaie qu'il faut hodl comme ils disent sur leur site web.
Voilà, exactement. Donc ils ont effectivement des rewards dans l'appli pour un certain nombre de trucs que tu peux ensuite convertir directement en Bitcoin. Aujourd'hui ils ont pas encore lancé
en vrai Bitcoin.
Ouais, tu peux les redeem en fait, eux ils te donnent des points. Si tu invites des amis, si je sais pas quoi, tu te connectes tous les jours et tout, et tu peux redeem en vrai Bitcoin. Ouais.
Ah, ok, d'accord. Je croyais que c'était genre un meme, le Walrus Bitcoin.
En gros, ils te donnent des points qui est des Walrus Points, des Walrus machin. Okay. Mais après, tu peux le redeem pour du vrai Bitcoin si tu as envie.
Ok, d'accord.
Ils veulent lancer du coup l'investissement en crypto. C'est pas encore lancé, mais vraiment à la Robin Hood, donc sur l'appli, et l'investissement en fractional shares, donc les actions fractionnées en bourse. Mais aujourd'hui, c'est une néobanque. Ils ont, je ne sais plus les chiffres, je crois qu'ils ont 450 000 téléchargements et sur les 450 000 téléchargements, 300 000 daily active users. Donc, juste monstrueux, pareil, en termes de traction. Voilà, bah, c'est l'Inde, hein, on part de zéro. Donc, rien que les 18-25 ans, leur cible en Inde, je crois que c'est 15 millions de personnes, la cible. Donc, c'est juste hallucinant. Bah, oui, c'est l'Inde, c'est tellement massif que voilà. Simple, mais ultra croissance. Extrêmement, extrêmement rapide, organique. En juillet, ils étaient à 100 000, et en août, quand on investit, ils étaient à 420 000. Croissance organique et toi, de dingue. Voilà.
Le rationnel pour lequel tu as investi sur cette boîte-là, c'est vraiment du coup les KPI qui ont l'air d'être explosés très régulièrement. C'est la croissance qui a l'air d'être inscrite dans le produit qui t'a attiré.
Bien sûr. Alors, de toute façon, j'aime beaucoup la fintech, comme tu le sais, j'investis beaucoup en fintech. Donc moi, les néobanques, ça m'intéresse, mais effectivement, les néobanques, il y en a 50. Comment tu fais pour sortir du lot. Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai investi dans Chime, qui est la plus grosse néobanque au monde, qui est valorisée maintenant 40 milliards aux États-Unis. C'est l'une des 19 décacornes au monde. Hein. Il n'y a que 19 décacornes, ou qu'on appelle aussi Dragon. C'est les boîtes valorisées plus de 10 milliards. Il n'y en a que 19 au monde, et dont Chime, donc quand même très fier. J'ai une décacorne à mon portefeuille. Et donc, comment tu fais pour te distinguer? Alors déjà, ce n'est pas un winner takes all. Donc, tu peux avoir 10 boîtes, tu peux avoir 10 néobanques en Inde qui cartonnent. Comme aux États-Unis, tu as Chime, c'est la plus grosse, mais tu en as d'autres. Tu as Dave, etc. Il y en a plein. Et en Europe, tu as Revolut et N26 et qui cartonnent toutes les deux autant alors qu'elles se tirent la bourre. Mais effectivement, ensuite, la preuve, à nouveau, elle est dans les chiffres. C'est-à-dire qu'une boîte qui passe de 100 000 à 350 000 en un mois, tu te dis, ils ont un truc, ils ont un marketing hyper chouette, hyper cool et ça fonctionne. Et ils ont du referral, énormément de referral, ils ont des coûts d'acquisition extrêmement bas, etc., etc. Donc tu te dis, bah, c'est un land grab en fait. C'est quel est le premier à atteindre 5 millions, 10 millions d'utilisateurs? Et à la vitesse où ils vont, bah, c'est eux. Et moi, je l'ai vécu avec la meilleure boîte de mon portefeuille de tous les temps, qui est Oxygen, qui est une néobanque aux États-Unis. Et c'est juste un land grab, c'est-à-dire que ce qu'ils font qui cartonne, c'est que. Alors eux, c'est une néobanque B2B, hein, Oxygen, alors Walrus, c'est B2C, mais. C'est juste aller le plus vite possible et exploser les compteurs. Et ils ont, quand tu as trouvé la formule magique pour acquérir des utilisateurs à une vitesse phénoménale, bah, tu n'as rien à faire. Quoi. Tu ne réfléchis pas, tu exécutes et tu land grab et tu y vas bêtement. Quoi, voilà.
Alors, moi, les trois premières boîtes, j'ai beaucoup aimé. Cette quatrième…
Ah, là, non.
De quoi?
Vas-y, vas-y. Non, mais là, non, je dis, ah, tiens, c'est marrant.
Non, non, les trois premières, j'ai beaucoup aimé. Et là, je me dis, des boîtes comme ça, j'en vois, enfin, il y en a beaucoup avec des belles métriques. Il y en a beaucoup. Je me dis, à YC, il doit bien y avoir quelque chose d'un peu plus punchy, d'un peu plus original, d'un peu plus hors du commun qu'une néobanque pour ado, quoi.
Alors, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi qu'il y a plus punchy, ça existe. Il y a des trucs beaucoup plus originaux, mais en fait. Enfin, tu vois, moi, je m'en fous que ce soit original ou pas. Je veux que ça
même en termes de traction, je me dis, il doit quand même bien y avoir un truc qui a encore plus de… Parce que tu vois, de la néobanque pour ados, c'est typiquement le genre de business qui a facilement beaucoup de traction. Donc je me dis, il doit bien y avoir une autre boîte que tu as dû voir passer, pour laquelle tu n'aurais pas pu imaginer qu'elle avait autant de traction à l'instant T.
Bah justement, en termes de traction, eux, ils sont dans le top 5% du batch. Ils sont vraiment dans le top du top. Okay. Il n'y a pas beaucoup mieux avec Baobab, par exemple. Il n'y a vraiment pas beaucoup de boîtes qui sont au-dessus. Pour la petite histoire, Step.com, donc c'est vraiment l'équivalent aux États-Unis, c'est la banque pour ados qui s'appelle Step.com. Ouais. Ils ont levé 80 millions en début d'année, avec notamment Charlie D'Amelio, la fameuse TikTokeuse dont tu as parlé, dont tu ne retrouvais pas le nom la dernière fois. Ouais. Et si tu veux, il y a plus original, mais moi, je ne fais pas dans l'originalité, je fais dans ce qui va fonctionner. Moi, ce que je regarde, c'est si j'ai une fintech avec des chiffres de malade. Ben, je sais que c'est un land grab et je sais que la boîte, si tu veux ça, c'est une boîte qui vaut 1 milliard dans un an et demi. Donc, et tu me dis, il y a mieux. Je suis d'accord, ce n'est pas hyper original, mais en Inde, moi, je ne connais pas de néobanque qui cartonne autant en Inde. Pour la petite histoire, moi, j'ai déjà investi dans une autre néobanque en Inde au précédent batch qui s'appelle Kodo, mais c'est à nouveau une néobanque B2B. Donc, c'est le Brex, si tu veux, indien. Ils veulent fournir des cartes de crédit aux entreprises pour tous les salariés, etc. etc. Et pareil, c'est une boîte où on a investi en février. Dernier, en mars, ils font le démo day et en un mois, on a multiplié notre valo par 4. Ils ont réussi à faire x4 sur leur valo à la sortie du démo day, tellement il y avait de demandes. Ils ont levé plus de 8 millions, notamment avec Brex, qui a investi chez eux. Et donc, si tu veux, encore une fois, quand tu trouves… Alors, ce n'est pas original, hein, c'est une néobanque en Inde. Franchement, voilà, je suis d'accord, c'est pas... ça n'a presque pas d'intérêt. Mais moi, mon job, c'est pas de trouver les trucs les plus.
Je sais pas, ouais. Je me suis mal exprimé. Je parlais pas vraiment d'intérêt ou de. Je veux dire, est-ce qu'il y a pas une boîte qui a encore plus de. Genre, est-ce qu'il y avait pas OpenSea, quoi. Tu vois ce que je veux dire, un ovni dans l'histoire, tu vois.
Ça, c'est ton côté. T'es un éternel romantique. Et je pense que t'as raison. Effectivement, il y a sûrement des prochains OpenSea. Donc, pour la petite histoire, et ils l'ont rappelé au début du Demo Day. OpenSea, ils ont fait le YC en 2016. Pour ceux qui ne connaissent pas OpenSea, bah, réécoutez les épisodes précédents de FarmSwat. Voilà, c'est la plus grosse plateforme d'achat-vente des NFT. Et en 2016, c'était une boîte un peu pourrie du YC. Personne n'a voulu investir. Ce n'était pas du tout sexy. Et aujourd'hui, voilà, c'est une des plus grosses boîtes du YC existantes. Donc, effectivement, Walrus, c'est déjà prouvé. Il n'y a pas de surprise. On sait que ça marche. On connaît Robinhood. On connaît les néobanques. Je n'ai pas pris un grand risque. Mais pour info, moi, je n'aurais probablement pas investi dans OpenSea en 2016. Parce que mon métier, c'est quand même de ne pas prendre trop de risques et d'aller de jouer un peu des trucs sûrs et certains. Mais si tu veux, quand je joue un truc sûr et certain, mais où les mecs, ils peuvent multiplier leur argent par 1000, c'est-à-dire que les mecs chez moi qui ont mis 2500 euros, ils peuvent récupérer 2,5 millions et je ne prends pas beaucoup de risques, c'est royal. Non, c'est ça mon métier. C'est
vrai, en termes de club, je comprends tout à fait. Ouais,
voilà. Ouais, okay. Et pour la petite histoire, on en a parlé hier soir, Jedi, à notre dîner, les gars du dîner, ils devenaient fous parce qu'ils connaissaient la crypto. Moi, j'ai refusé d'investir dans Sorare au tout début, en seed. J'ai aussi fait une vidéo YouTube qui est sortie récemment qui s'appelle « J'ai refusé d'investir et j'ai perdu 200 millions ». Et donc, c'est ça l'histoire, c'est que si j'avais investi dans Sorare, aujourd'hui, ça vaudrait 200 millions. Ce n'est pas mon argent à moi, c'est l'argent de tous les membres du club. Mais un investissement de 150 000 dollars il y a 3 ans vaudrait aujourd'hui 213 millions d'euros, pardon, 150 000 euros à 213 millions d'euros. Pourquoi ? Parce que c'était trop risqué à l'époque, ça ne correspondait pas à mes critères d'aujourd'hui. Moi, je suis pas… Mon métier, ce n'est pas de vraiment mettre des flyers sur des trucs qui me paraissent complètement fous. Tu vois, je ne fais pas des moonshots. Moi, je fais plutôt des sure things. Ça marche aussi. Voilà.
Tu n'as pas une section dans ton fonds, enfin dans ton club, où tu dis une fois par an, je vous propose un truc super risqué et on tente un truc. Tu n'as pas ça, du coup, je comprends le type de profil de risque que tu veux proposer. Est-ce que tu n'as pas une section où, de temps en temps, tu as des petites perles qui, en fait, n'ont pas de métriques ou pas grand-chose, mais la team a l'air oufissime, le marché a l'air dingue. Et tu dis, bah allez, les gars, si vous voulez, on met même moins, tu vois, par exemple, que 50K, mais on essaye de faire des moonshots sur des trucs qui sont pas du tout, qui sont super risqués.
Non, je ne le fais pas aujourd'hui. Alors moi, je peux le faire en perso. J'en ai fait certains, des tout petits tickets sur des mecs. J'ai vraiment juste une conviction trop importante pour les laisser passer. Mais je ne peux pas le proposer au club parce que ça ne rentre pas dans les critères. Mais aujourd'hui, je ne le fais pas avec le club. Et tu sais, Léonis, c'est un club premium. C'est un club où pour rentrer, c'est cher. Et les gens, ils viennent là pour gagner de l'argent. Ils viennent aussi là pour rêver, mais ils viennent là surtout pour gagner de l'argent. Encore une fois, si je peux prendre… Il ne faut pas oublier que les startups de base, c'est hyper risqué, y compris le Y Combinator. Et il y a quand même des boîtes qui vont se planter. Donc, si je peux prendre un peu moins de risques, mais aller sur des trucs un peu plus sûrs, mais dire aux gars, bah, comme c'est la Silicon Valley, comme c'est le Y Combinator, tu vas multiplier ton argent par 100, par 1000, c'est royal. Ils ne demandent que ça. Les gens, ils veulent prendre le moins de risques possible. Et encore une fois, une boîte comme Walrus, à la valo à laquelle on investit, on peut faire x 1000 facilement, si tu veux. Enfin, facilement. C'est pas nous qui allons bosser derrière, c'est eux. Mais j'ai aucune difficulté à imaginer qu'une boîte comme ça, si elle réussit et qu'elle a la bonne trajectoire, on puisse faire fois 1000. Et faut pas oublier non plus que l'histoire est écrite par les vainqueurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit OpenSea et on se dit, putain, si j'avais investi en 2016, c'est dingue, etc. Mais en 2016, si tu avais mis des flyers sur 10 boîtes un peu bof, tu aurais peut-être perdu ton argent sur les 10 boîtes. Et même chose aujourd'hui. Donc, si tu veux, moi, j'ai des critères d'investissement hyper précis que j'ai développés justement pour réduire réduire la sélection à des boîtes où on a beaucoup plus de chances qu'elles réussissent que les autres. Et donc, ça veut dire que tu prends moins de flyers. Ça va ensemble. Une boîte qui a plus de chances de réussir, c'est une boîte qui a moins de chances d'échouer. Donc, c'est une boîte qui est déjà plus sur une trajectoire écrite. Voilà.
Moi, j'ai une anecdote par rapport à OpenSea qui est dans la même catégorie de OK, il y a des flyers, il y a des winners takes it all qu'on ne voit pas venir. En 2019, début 2019, je venais de rentrer dans ma startup à l'époque. J'avais déjà envie de voir un truc ailleurs. Et je rigole parce que j'en ai déjà parlé plein de fois en privé. Et du coup, j'avais repéré OpenSea qui était du coup la petite startup pourrie qui proposait des NFT. Il y avait que des NFT qui ressemblaient à rien. Enfin, qui du coup, la plupart valent des millions aujourd'hui, tu vois. Mais du coup, il n'y avait pas beaucoup de
Il y avait
NFT, il n'y avait
peut-être
pas
des
beaucoup de
CryptoPunk,
trafic.
qui sait?
Ouais,
Oui,
des
donc
CryptoPunk à 10
probablement.
balles. Ah, oh, c'est moche
Ouais.
ce truc et tout.
Il n'y avait pas de volume. Ils étaient quatre. Leur outil de recrutement, c'était un Notion. Vraiment basique. Et il recherchait un growth à l'époque. Et je m'étais dit, mais trop bien. Je comprends plus ou moins à quoi ça sert un NFT. En tout cas, j'ai l'impression que ça va être l'espèce de plateforme où les gens vont aller revendre leurs petits bonhommes qu'ils ont récoltés dans des jeux ou leur œuvre d'art digitale, etc. Bref, j'avais plus ou moins capté le truc au début, tu vois. Et à l'époque, enfin, et toujours maintenant, je tiens beaucoup en estime le CTO avec lequel je bossais. Et je lui ai envoyé une capture d'écran de OpenSea en lui disant, t'as vu, il recherche un growth, qu'est-ce que t'en penses? Et sa réponse, et je lui en veux pas, parce que c'est moi qui ai pris la décision à la fin de ne pas le faire, enfin, de ne même pas essayer de postuler, sa réponse était, tu vaux mieux que ça. Donc, tu vois, 5 ans après, moi, je suis passé à côté, quelque part, si on part du principe que j'aurais pu être accepté, je suis passé à ça de travailler chez OpenSea en tant que quatrième employé,
T'aurais
ou
eu
cinquième.
des ouais, t'aurais eu du capital,
Du capital, du
de
knowledge, de
l'inside,
l'insight. Ouais, c'est ça.
ouais. J'ai exactement la même histoire avec Snapchat.
Ah,
En
voilà.
deux, au début de Snapchat, je sortais de mon école d'ingé et je me dis, vas-y, c'est dans la Silicon Valley que ça se passe. J'avais déjà l'idée. Je me dis, bah, je vais aller postuler dans une startup dans la Silicon Valley. Et je trouve une offre. À l'époque, j'avais monté une toute petite boîte de community management. Et en fait, je trouve plein d'offres dans la Silicon Valley, mais c'était que développeurs, développeurs, développeurs. Moi, je ne voulais pas développer. Je savais un peu développer, mais je n'étais pas très fort et ça me plaisait pas. Et donc, dans la Silicon Valley, je galère. Et je trouve un job. Moi, ce que je faisais, c'était donc du social media. J'avais des clients pour qui, en fait, j'animais les communautés sur Facebook, Twitter et tout. On parle de 2011, 12, 13. C'était vraiment le début. Et je trouve un job community manager dans une startup que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelait Snapchat. Et c'était bien payé et tu avais 0,5% de la boîte. 0,5% de la boîte. Et comme toi, François, je me suis dit, ah bah ouais, trop bien, je vais le faire et tout. Puis j'ai même pas postulé. Donc c'est même pas que j'ai été rejeté ou quoi. Je me suis dit, je le ferai plus tard. Et puis une semaine après, j'avais changé d'idée. Je me suis dit, bon, finalement, je reste en France. Mais
Moi,
voilà, si j'avais eu 0,5% de
c'est plus
Snapchat,
grave que
ça
ça.
valait, je sais plus, presque 1 milliard au moment de l'IPO, quoi. Enfin, un truc de fou, quoi.
C'est plus grave que ça, puisque moi j'ai envoyé un seul message à Dave ou David Finzer, qui est le CEO de OpenSea sur LinkedIn. Il m'a accepté, il n'a pas lu mon message. Et je me suis dit, bon, bah, je vais lui en renvoyer un la semaine d'après, tu vois, et je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, c'est bon, bref, des petites histoires comme
Mais
ça,
c'est
on a
marrant. Mais
tous.
les miss, c'est important d'en avoir aussi et ça fait partie du jeu. Mais voilà, on n'a pas que des miss non plus. Il y a aussi des trucs bien, quoi.
Malheureusement, malheureusement.
Ça me fait penser à ce copain avec qui, je sais pas, la dernière fois, je me souviens que je vous avais parlé qu'on avait acheté, j'avais acheté des Ethereum hyper tôt. Et en fait, je les avais achetés avec un copain. Et lui, il a revendu en fait quand il avait fait x10. Donc on avait mis 1000 balles chacun. Et on a revendu à lui, il a revendu quand il avait fait x10, il a revendu à 10 000 balles, quoi. Et on se parle plus trop aujourd'hui. Je pense pas qu'il écoute ça, mais je me demande, tu vois,
Salut.
l'effet que ça lui fait de. Non, mais t'imagines le truc de se dire, enfin, s'il fait le calcul, lui, il sait combien on en avait acheté, et s'il fait le calcul aujourd'hui, voilà, ça vaut nettement, nettement plus. Et je pense toujours à lui, je me dis, putain, c'est chaud, quoi. Il y a des histoires comme ça.
Sur cette bonne note, j'ai envie de verser presque une larme pour lui. J'espère qu'en ce moment, enfin, probablement qu'en ce moment, on est en train de refaire la même erreur, mais on ne sait pas.
C'est ça le truc, c'est que j'écoutais hier, il y a. Alors, très étonnant, vous connaissez Clubhouse et vous savez que depuis maintenant quelques semaines, quelques mois même, c'est un peu down Clubhouse. Genre, il y a plus grand monde sur Clubhouse, mais il reste un pélo dessus, c'est Naval Ravikant. Alors, Naval, lui, il est investi aussi. Il n'a pas que fait investir, il fait des clubhouses. Et c'est très beau parce que maintenant, il fait des clubhouses avec des mecs pas mal. Il fait des clubhouses avec le cofondateur de Compound, cofondateur de One Inch. Il a des... Et là, c'est full DeFi NFT maintenant, les podcasts de Naval Ravikant. D'ailleurs, j'étais ce matin, je t'en ai envoyé un d'ailleurs, François. J'étais en train d'en écouter un, je suis à la moitié. Et c'est très drôle parce qu'il donne sa perspective sur la DeFi, il donne sa perspective sur le liquidity mining, il donne sa perspective sur les NFT. Et on a rarement entendu ça de Naval. Très souvent, c'était un peu plus startup et c'était beaucoup moins crypto. Il parlait d'une façon un peu méta de la crypto, un peu comme Balaji, c'est-à-dire qu'est-ce que la crypto et la décentralisation a comme impact dans le monde, mais il n'allait pas en profondeur jusqu'à parler des protocoles, jusqu'à parler des NFT, etc. Et maintenant, il le fait. Et à un moment donné, il dit le meilleur, d'ailleurs, j'ai tweeté ça, hein, vous savez que la plupart de mes tweets, ce n'est pas moi qui les écris, évidemment, je m'en inspire. Et il avait tweeté un truc, je vais essayer de le retrouver, mais en mode, en 2013-2014, le test de QI, genre en voir quelle était ton intelligence, c'était d'acheter du Bitcoin. En 2017-2018, pendant que le Ethereum montait, c'était de ne pas le vendre et de le garder, c'était son test d'intelligence. Quel va être le test d'intelligence de 2020-2021?
Avoir des NFT.
Je sais pas, on verra. Mais c'est quoi les tokens ou les NFT où en 2020-2021, tu as beaucoup de pression pour les vendre et en fait, il faut surtout pas les vendre.
Je pense que c'est les NFT.
Ouais, mais lesquels? Parce que tout c'est les NFT, ouais, c'est pas.
Lesquels?
C'est une classe d'assets.
Mais tu as plein de mecs là-bas. Il y a plein d'histoires là de c'est toi Jedi qui m'en parlait, des mecs qui vont minter des NFT pour 10 balles et le lendemain, ça vaut, je sais pas quoi, 10 Ethereum. Là, t'as trop envie de vendre, quoi, tu vois. Et ça, c'est un vrai test. Alors, je fais une parenthèse. Vas-y, François, vas-y.
Non, je voulais juste rebondir sur l'histoire du test du QI 2013-2014, enfin 2009, je sais pas quoi, quand les BTC sont sortis. Je suis pas sûr et certain que le QI moyen des gens qui achetaient des BTC à l'époque était si élevé que ça.
C'est vrai.
Ceci dit, je me trompe peut-être. Probablement qu'il y a...
Non, je pense qu'il y a... Si, quand même, parce que...
Il y avait une minorité deux très intelligente et le reste, ça doit être
des. Ouais. Je pense que tu as quand même beaucoup de gens hyper, au contraire, gros cul, parce que c'était des développeurs et des mecs qui avaient capté avant tout le monde c'est la monnaie d'Internet.
C'est ça le truc. Parce que le truc, c'est que moi, pour le coup, à l'époque, donc moi, mon premier Bitcoin que j'ai acheté, c'était. J'ai regardé là l'âge que j'avais 19 ans. Donc vous faites le calcul, j'ai 27 ans, donc ça fait il y a 8 ans. J'ai acheté du Bitcoin à l'époque pour faire des conneries sur Internet, sur le Deep Web. Et j'étais très impliqué sur le Deep Web de mes 16 à mes 19 ans. Et les gens qui étaient sur ces communautés-là, c'était très drôle parce que tu avais vraiment deux... Tu avais plein de topics, en fait. C'était des topics très méta, mais c'était aussi des topics totalement illégaux. Et tu avais vraiment deux types de personnes. Tu avais des perchés, utopistes, qui devait être certainement autiste ou Asperger ou je sais pas quoi, qui te faisait des pavés sur pourquoi la politique et l'économie dans le monde ça va pas, et alors il te parlait de plein de trucs et tu avais des forums avec des pages et des pages et des pages, mais tout ça était hébergé dans des forums Deep Web où ça se vendait des cartes de crédit volées, ça vendait de la coke et des armes. Les deux topics étaient je veux dire, t'avais
Silk Road, vraiment... quoi.
C'est ça, c'était des...
Ouais, mais le fondateur de Silk Road, moi j'ai lu le bouquin là, qui parle de sa traque, c'est passionnant, je vous le conseille, American Kingpin, ça s'appelle.
J'ai vu le docu, là, il y avait un docu récemment.
Et lui, c'était un businessman, mais c'était avant tout philosophique. C'était avant tout, comme tu le... Enfin voilà, c'était un mix des deux, comme tu le mentionnes. C'était avant tout une posture philosophique.
Ouais, et t'avais ces mecs-là, et en même temps de ça, t'avais clairement des mecs qui étaient... parce que moi, j'étais dans des communautés anglophones, mais principalement quand même francophones. J'étais sur plusieurs communautés et parce que j'ai toujours les noms des communautés et il y avait des noms what the fuck. Et dans les francophones, c'était Rachid dans Paris qui vend pas du shit en bas des blocs comme ses potes, mais qui est un peu dev a fait quelques études, il n'est pas trop con, et il sait faire des sites de phishing, et il récupère des cartes de crédit volées sur le Bon Coin. Et ils vendaient ça contre du Bitcoin, parce qu'en fait, la monnaie, c'est le Bitcoin. Et donc, t'avais vraiment. Et donc, ces gens-là, je pense pas que le mec, il avait une envie de révolutionner le monde. Il était juste en train de faire la même chose qu'il aurait fait au bas des blocs, mais sur Internet.
Ah, c'était un petit malin quand même.
Il avait certainement beaucoup moins de chances de se faire choper que ses potes en bas des blocs. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est très drôle parce que je regarde beaucoup de mecs sur Twitter, je suis beaucoup dans la crypto, etc. Et il y a des mecs qui disent, on était là à l'époque de Silk Road, etc. Et tu as des mecs qui remettent même des. Vous savez, dans Internet, il y a les histoires d'Internet. Comme récemment, il y a eu Loot. Et des fois, tu as des histoires comme ça, un peu what the fuck, qui marquent des moments sur Internet. Reddit est rempli d'anecdotes de mèmes qui ont marqué Internet. Et à l'époque du Deep Web, ou toujours aujourd'hui, ça existe toujours le Deep Web, mais à l'époque, c'était un peu la trend. Tu avais aussi des choses qui ont marqué Internet. Et aujourd'hui, sur Twitter, tu as des comptes Twitter de mecs dans la crypto où on sait que les mecs ont des dizaines, des centaines de millions sur leur wallet MetaMask. Et ils te ressortent des moments de l'époque du Deep Web. Et donc, tu sais, genre, si tu as la référence, tu sais que ce mec-là, il était là à ce moment-là, tu vois. Et tu sais pas s'il était dans le camp de l'intello ou dans le camp de Rachid qui essaie de vendre des cartes de crédit au lieu de se faire choper en
Et
bas
tu sais,
des
ça me
blocs.
fait penser à Xavier Niel. Hein. Xavier Niel, il a commencé en bidouillant des sites porno sur le Minitel. C'était pas, il était plus du côté de l'illégalité et de la bidouille rapide pour se faire du fric et on s'en fout que ce soit légal et tout, que du côté hyper sérieux, machin et tout. Aujourd'hui, tu vois, c'est un milliardaire français, une des personnalités les plus avec le plus de notoriété, de reconnaissance envers lui, etc. Je repense à ce que vous disiez avant sur le test d'intelligence, c'était de pas vendre tes Ethereum, etc. C'est un avantage énorme des startups. C'est que dans la startup, tu peux pas vendre, t'es pas tenté. Et je retourne souvent ça à mon avantage, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui me disent, ah oui, mais moi, c'est pas liquide, c'est chiant, je peux pas récupérer mon argent quand je veux si j'investis chez Leonis Investissement. C'est vrai que c'est un inconvénient, mais pour cette raison-là, c'est aussi un avantage. C'est-à-dire que quand tu as, que ce soit des cryptos, des NFT ou même des actions en bourse, eh ben, tous les jours, tu as un petit bonhomme sur ton épaule qui te dit, ah, il faut vendre, il faut vendre. Et si tu ne vends pas et que ça se pète la gueule, tu as l'air con. Et si tu vends et que ça continue à monter, tu as l'air con. Et tu ne sais jamais, en fait, c'est seulement après coup que tu vas savoir si tu avais eu raison ou pas. Et quand tu es dans les startups, bah, tu n'as pas ce problème-là. Donc c'est un inconvénient, ton argent est bloqué. Mais c'est aussi un avantage parce que tu es peinard, tu as vraiment le cerveau tranquille, tu as la tranquillité d'esprit et ça joue vraiment. Et de toute façon, soit la startup se plante, voilà, mais si la startup elle a des coups durs que tu es tenté de vendre, tu peux pas. Et après seulement, tu iras à l'IPO. Et il y a plein d'exemples. Tu as parlé de Reddit, c'est un bon exemple parce que voilà, c'était une boîte qui a mis 20 ans et maintenant aujourd'hui c'est devenu un mastodonte du web. Snapchat, c'est un bon exemple, même si c'était en bourse, mais ils sont rentrés en bourse et ils ont complètement pété la gueule pendant 4 ans, ils valaient rien. Et maintenant seulement, au bout de 4 ans, ils remontent. Donc là, c'était en bourse, mais voilà, il y a plein d'exemples de boîtes où c'est pas forcément linéaire, mais si tu es en startup, tu peux pas vendre et c'est un avantage.
C'est vrai.
Ou un
C'est pas
inconvénient parce que tu peux pas récupérer ta mise avant que ça se plante.
faux, c'est pas faux. D'où l'intérêt d'être diversifié.
Exactement.
Faisons un peu de
Dit-il,
conseil financier. Dit-il
le gars qui
en.
est à 90% sur des NFT.
Le
Grave.
truc le moins liquide du monde.
Est-ce que vous voulez que je vous fasse découvrir quelques autres startups du YC avant qu'on termine? Ou est-ce que si on n'a plus le temps, on s'arrête là, comme vous voulez?
Alors, c'est toi, si tu as le temps, oui, mais je sais que tu
Moi,
as rendez-vous.
oui.
Donc,
Attends,
non,
ça
non,
va
moi
être
j'ai le temps,
longtemps.
hein.
je ne sais pas, est-ce que les auditeurs vont nous écouter jusqu'au bout?
Alors,
Oui, bien sûr.
fais-nous découvrir
On a des gens hardcore. Donc,
deux startups que tu as vraiment kiffées dans lesquelles tu n'as pas pu investir.
Alors, ok.
Ou
Deux, alors, bah, il me restait deux startups dont je voulais vous parler. Une première, enfin, il y en a une première, c'est deux startups qui font la même chose, mais c'est un thème. Et c'est un thème nouveau. Et je pense que c'est vraiment intéressant. Les deux startups, il y en a une qui était dans ce batch-là qui s'appelle Level. Et j'ai eu la possibilité d'investir, mais j'ai choisi de ne pas investir. Donc Level, LEVEL. Et il y en a une autre qui fait exactement la même chose, mais elle était dans le batch d'avant, que j'avais déjà vu, qui est pas mal aussi, qui s'appelle Sivo. SIVO. Level et Sivo, ils font de la dette on demand. C'est de la dette par API. Donc c'est un équivalent d'un Stripe. Mais au lieu de faire de l'encaissement, ils vont te fournir de la dette directement. Ils vont te prêter de l'argent, mais en API.
C'est pas la boîte, ça fait pas la même chose qu'une boîte que je t'avais envoyée juste après avoir écouté le podcast de My First Million. C'était une boîte qui faisait du. En gros, toi, tu as une société qui vend un software pour les boîtes de construction. Et en fait, tu peux plugger l'API de cette entreprise et proposer un crédit B2B dans ta solution white labellisée. C'est pas ça du tout.
C'est le même genre, mais en fait, cette boîte-là, ils vont travailler avec le produit dont tu viens de parler pour leur fournir justement la dette. En fait, ça ressemble à, comment ça s'appelle ce truc dont vous, où tu sais, si t'as tu vends un MRR et les mecs qui te...
Pipe.
Ouais. Voilà, ça ressemble à Pipe. Donc, Pipe, en fait, ça vient prendre toute une asset class qui est le revenu récurrent et ça va te proposer à des investisseurs d'investir dans le revenu récurrent. C'est-à-dire que toi, si tu as un revenu récurrent, tu le files à Pipe et eux, ils te font une avance d'un an. Ils vont t'avancer l'argent. Ben là, c'est un peu la même chose, mais donc ça crée une nouvelle asset class, mais avec la dette. C'est-à-dire que si tu es une entreprise qui a de la dette, eh ben, tu vas aller voir Level ou Civo, ils vont te financer ta dette et en échange, toi, tu leur payes des taux d'intérêt qui, eux, après, ils vont aller vendre à des investisseurs. Et tout ça se fait par API en mode Stripe-like. Donc, je trouve ça assez chouette. Quand je l'avais vu la dernière fois déjà, en mars 2021, j'avais trouvé ça dingue. Mais ce qui me plaît, c'est que ça se confirme. Là, il y a une autre boîte qui fait ça. J'ai eu la chance de très bien m'entendre avec le fondateur. On a été un peu copains d'ailleurs. Et du coup, il m'a donné plein d'insights sur l'industrie et tout. Et là, il a levé un super gros round. Ça y est, ça commence à vraiment démarrer très, très fort pour lui. Et en fait, c'est hyper intéressant. En plus, une boîte comme ça, c'est hyper méta parce qu'il a plein de clients à l'intérieur même du Y Combinator. Par exemple, Maru, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fait le Buy Now Pay Later pour l'industrie du mariage, bah, c'est des clients de Level et de Civo parce qu'en fait, eux, ils prêtent de l'argent et donc eux, bah, ils viennent choper la dette chez Level et chez Civo.
Ça, pour le coup, c'est un unfair advantage aussi quand tu fais YC auquel on ne pense pas immédiatement. C'est tous les clients que tu peux avoir à YC.
Ouais. Quand tu et c'est absolument clients, énorme. Ouais. Tout, okay, et j'ai vu un tweet… j'ai vu un tweet hyper, hyper drôle, mais qui est vrai, qui disait un jour, YC, ça va devenir un écosystème fermé où il n'y aura que des boîtes qui se vendront entre elles et c'est tout. Ce sera juste, ils n'auront plus aucun contact avec l'extérieur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un tel écosystème. Et moi, je le vois parce que je connais toutes les boîtes. Et parfois, tu vois dans le demo day ou quoi, dans les pitchs, voilà nos clients. Et il met genre 5 noms. Tu dis, il a 5 clients, il vient de commencer. Et c'est les copains du batch à qui j'ai parlé, genre la veille et tout. C'est trop drôle, tu vois. Ils se refilent tous des services entre eux. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant et voilà, je voulais vous en parler parce que je pense que c'est vraiment une tendance, vraiment créer des nouvelles asset classes et les proposer à des investisseurs comme Pipe le fait sur le MRR, comme Level et Civo le font sur la dette, et c'est une super opportunité de création de boîte. Les mecs de Y Combinator, quand ils ont vu Level, ils ont dit aux gars, ça, vous êtes deux à le faire et c'est $1 billion plus dans les 2-3 années qui viennent, donc allez-y à fond. Et vraiment les mecs du YC, tous les partenaires sont derrière en mode ça, on crée carrément vraiment un nouveau marché quoi, si tu veux. Et donc c'est hyper intéressant de se dire pour tous les gens de FarmSpot qui nous écoutent, quand même aussi écouter pour avoir des idées de business, etc., etc., qu'est-ce qu'on peut créer comme nouvelle classe d'assets pour des investisseurs, dans quoi on peut investir à partir de trucs qui n'existaient pas. Tu veux investir dans le MRR, ça n'existait pas il y a quelques années, maintenant Pipe le fait. Investir dans racheter la dette, proposer la dette comme produit d'investissement, ça existait, mais ça n'existait pas sous cette forme-là, en mode API, plug and play, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quel est le prochain truc? Tu vois, est-ce qu'on ne peut pas faire… on en parlait…
Pipe pour les propriétaires de…
Ouais, pour les landlords, exactement.
Ouais, ça, c'était Pipe super pour les landlords. Tu m'avais dit que la boîte avait un peu changé, mais vas-y, pitch, là, on a 2-3 minutes avant que tu partes, dis-moi.
Ils ont pivoté, l'idée est géniale, c'est Pipe pour les landlords, donc c'est pareil. C'est un peu, donc Pipe, c'est si tu as du MRR, du revenu récurrent, on te file un an en avance, et après, on récupère le MRR, nous, de notre côté. Et en fait, quand tu es un propriétaire, c'est pareil. C'est comme si tu avais du MRR, parce que tu as un gars chez toi qui va te payer tous les mois un loyer. Et donc, on va te filer un an d'avance de loyer en cash et tous les mois, le loyer, il sert pour rembourser. Et pareil, tu peux mettre en relation avec des investisseurs qui vont te fournir le capital pour investir là-dedans.
Tu as capté donc, François ou pas?
Je vais trop vite, pardon.
J'ai capté. Non, j'ai tout à fait capté. Désolé, il y a les Italiens qui hurlent dans la rue. Du coup, je me mute. Désolé.
Là, mais par contre, le... ce qu'il vient de dire là avec les landlords, c'est super intéressant et j'avais vraiment bien aimé cette… Je vois très bien… je me posais la question, est-ce que c'est un vrai problème? Je ne suis pas propriétaire, mais je pense que surtout pour les propriétaires investisseurs, c'est super quoi, pour eux.
Je pense que ce n'est pas un problème. Je pense que tu n'aurais pas 100% des propriétaires qui seraient concernés, mais qu'il y a des gens que ça peut intéresser à un moment donné, comme tu l'as dit, pour refaire un achat ou pour x, y raison, un besoin personnel, tu vois, l'argent, avoir une besoin de cash qui arrive rapidement. Il y a quand même des milliards de cas et de possibilités dans la vie de tout le monde qui peuvent se présenter. Donc, tu n'auras pas tous les propriétaires immobiliers au monde comme clients, mais tu imagines le nombre de clients potentiels, le nombre de propriétaires immobiliers à qui tu peux proposer ton offre. C'est quasiment infini. Écoute, encore une fois, c'est des trucs en fait où… c'est nouveau, c'est un espèce de shift mental. Il faut capter que c'est possible et que ça existe. Tu veux même Pipe? Personne connaît, moi, quand je parle de Pipe autour de moi, personne connaît. Bon, dans le milieu startup et tout, un peu plus. Et ensuite, il faut penser à transposer ça sur un autre secteur. Effectivement, il n'y a pas que, à mon avis, les loyers. Il y a sûrement plein d'autres trucs. Par exemple, il y a une boîte qui fait pipe sur tes receivables de carte bleue. Donc, tu as des dettes en carte bleue. Bah, pareil, tu vas créer des investisseurs qui vont te les rembourser pour que tu payes moins de taux d'intérêt, etc. Donc, en fait, tu peux piper ou piperiser énormément de secteurs. Mais c'est vraiment un truc de créativité intellectuelle. Il faut vraiment y penser. Moi, j'aurais jamais pensé tout seul au pipe du real estate des propriétaires. Donc, je pense que c'est pour ça. Pipe mais quand pipe estate, va devenir super beaucoup. Connu, ouais. Ouais. Et quand pipe va être plus connu et que les gens vont se mettre à y penser, on aura des pipes de plein de trucs. On aura des pipes de plein de trucs à l'avenir. Mmh. Et maintenant, un peu les pipes de la dette, on commoditise la dette en API. Je trouvais ça hyper intéressant. Donc, je voulais vous parler de ça. Et c'est des boîtes pas forcément évidentes de comprendre au premier abord, parce que c'est un peu. Mais je pense que c'est hyper intéressant et qu'elles vont aller loin. Et vu l'attraction qu'elles ont l'une et l'autre, Level et Civo, j'ai pas de doute que voilà, enfin, ils sont déjà très 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 bien lancés. Ouais.
Lourd. Et ok. Voilà. Et donc t'as quand même d'autres investissements là qui vont rentrer, des boîtes avec qui t'es en contact d'OSI ou c'est fini?
Ouais. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a beaucoup de boîtes pour qui c'est fini. Souvent les meilleures. J'ai eu juste tout à l'heure, là, j'ai ouvert un mail d'une boîte qui m'intéressait, qui me dit désolé, ciao, c'est fini, on a oversubscribe. Mais c'est pas fini pour tout le monde. Il y en a qui sont un peu plus gourmands et qui veulent aller chercher plus de fonds. Donc par contre, on va investir à une valorisation un peu plus élevée. Mais on en parlait tout à l'heure dans l'épisode. Moi, je trouve pas que ce soit forcément trop cher pour. Enfin. Je juge au cas par cas, mais même si la valorisation augmente, mais voilà, c'est des boîtes qui ont des super courbes. Et ouais, je suis en contact avec les 24 boîtes que j'ai likées début septembre. Je suis en contact avec elles. Il y en a peut-être, je sais pas, entre 5 et 10 qui m'ont répondu à ce jour. C'est trop tard, on a bouclé. Mais les autres, c'est encore ouvert et c'est sur la table. Et hier soir, on faisait la réunion avec les membres de mon club. J'avais fait 4 investissements en août, je pensais qu'ils étaient à court de sous. Et je leur ai posé la question, vous êtes chaud, on y retourne. Et tout le monde m'a dit, ouais, vas-y, balance, on veut un deal encore. Donc, je dis, bon, bah ok, il y en a encore sous le pied, donc on y va, quoi.
Money.
On a investi 2,5 millions juste en août. Donc, voilà, c'est quand même des belles sommes, quoi. Donc, ouais, ils ont craché pas mal de sous. C'est pour ça que je me disais, ils n'ont plus d'argent, quoi. C'est pas possible, mais si.
Si, putain. Et plus le club s'agrandit, plus voilà. On devrait faire un club, François, de faire un spot où on n'a pas accès à des deals.
Non, mais du coup, ce serait que sur les investissements à risque très toxiques, exotiques, pas toxiques.
Des JPEG. Du texte sur une image noire. Juste ça comme investissement.
Bah, probablement que le ROI est supérieur pour le moment, en tout cas.
Je sais pas. Et d'ailleurs, j'ai embarqué Gabriel, il t'en a pas parlé, mais il en a pas parlé.
J'ai vu un tweet auquel
À force d'écouter FarmSpot, voilà, je peux le dire pour tous les auditeurs, à force d'écouter FarmSpot, j'ai acheté mon premier NFT. Je suis dans la crypto depuis très, très, très longtemps. Très longtemps, depuis début 2017, donc avant la hype, etc. Début 2016, enfin bref, avant la hype. Et j'avais pas encore été sur les NFT. Pas parce que j'y crois pas, mais parce que j'avais pas pris le temps de m'y intéresser vraiment. Je suis assez occupé quand même. Et puis voilà, j'aurais bien acheté. Quand je m'y suis penché il y a quelques mois, je m'étais dit, faudrait quand même y aller. Je me suis dit, j'y connaissais rien, donc je vais acheter un CryptoPunk. Puis j'ai vu les prix, je me suis dit, je vais pas acheter un CryptoPunk. Donc j'avais pas été sur les NFT. Finalement, je me suis lancé là il y a quelques jours. Voilà, c'est un début, on verra. J'ai pas la prétention d'être autant à fond que vous deux, mais je suis content d'être dans la vague, vibe, dans la vibe. Et
tu peux révéler ce que tu as acheté?
Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. À toi, je peux te le dire, mais je ne vais pas le révéler publiquement, ne serait-ce que parce qu'en fait, derrière, il y a tous les membres de mon club privé qui me l'ont demandé et je ne leur ai pas dit. Donc, si je le dis sur le club, il faudrait que je leur dise en premier. Tu vois.
Ok, c'est normal. Voilà.
Mais toi,
ça les intéresse ou pas?
Ouais, ça les intéresse. Alors, okay. Ouais, bien sûr. Chez Léonis, on est vraiment, ils sont vraiment à fond crypto. Hein. Ils adorent ça. Parce que aussi, moi, j'ai fait beaucoup de vidéos YouTube sur la crypto, donc ça a un peu mixé les univers. Et puis, c'est normal, c'est prendre des risques. C'est de prendre beaucoup de risques pour espérer gagner beaucoup. Donc, c'est un peu le même esprit crypto et startup, même si c'est pas la même chose. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens dans le club qui aiment beaucoup, beaucoup la crypto et qui sont à fond. Pas tout le monde, hein, mais il y en a beaucoup.
Je sais pas si vous entendez, les gars. Mais il y a les cloches qui sonnent là. Il est l'heure.
J'entends rien du tout.
Putain, c'est magnifique. C'est dommage pour vous.
Ah là, j'entends. Si, j'entends les petites cloches. Si. Moi, j'aime beaucoup ta petite cafetière là. Tu vas aller te faire un café pour démarrer
même pas... Ah, ça y est, j'entends. Ouais, c'est une cafetière italienne, si. C'est chouette. Ouais. J'entends les cloches, c'est cool.
Bon, bah écoute, c'était super cool. On a passé un bon moment, on a appris plein de trucs, plein de nouvelles boîtes que j'avais pas. On t'a laissé beaucoup parler, pour être honnête.
Ouais, je voulais que tu bavard, nous donnes. Hein,
non, mais que tu nous donnes tout ton savoir et tous ces marchés hyper intéressants. Et c'est encore une fois, c'est l'exemple type que heureusement que je suis pas à 3000% dans la crypto et que je suis quand même, j'entends quand même des boîtes comme ça parce qu'il y a plein de trucs hyper excitants et. Et ça me fait plaisir de savoir que même des business pas crypto m'excitent quand même. Quoi. Ça, c'est un truc, on en parle souvent avec François, c'est ce qu'on pourrait parler pendant des heures de crypto. Oui, mais on a aussi envie d'entendre des business normaux, quoi. Enfin normaux, un peu plus tradis. Quoi.
Hors crypto.
Ouais. Ouais,
hors crypto. Alors pour la petite histoire, il y avait très peu de boîtes crypto au YC. Moi, j'attendais ça avec impatience. C'était déjà le cas la dernière fois et j'étais assez déçu. Il y en avait quelques-unes, mais je crois qu'il y en avait 3 sur 400.
Question, est-ce que tu penses que c'est YC qui ferme les vannes et qui n'accepte pas les applications crypto, ou est-ce que tu penses que les gens qui sont dans la crypto n'ont pas besoin de YC?
Alors, ni l'un ni l'autre. Enfin, je ne pense pas que ce soit YC qui ferme les vannes, et je pense que les gens dans la crypto pensent qu'ils n'ont pas besoin de YC et que du coup, ils n'y vont pas. Moi, je pense qu'ils en auraient besoin. Je pense que ça ferait beaucoup de bien à des projets crypto d'aller faire YC.
Clairement.
Mais je pense que les gens dans la crypto se disent « j'ai pas besoin de ça et n'y vont pas, à mon avis. » Mais je ne pense pas que YC ferme parce qu'ils prennent quand même des projets crypto, donc ils sont au courant. Enfin, à mon avis, ils pensent que c'est un secteur porteur et intéressant.
Ils prennent des projets crypto un peu safe, pas pour le coup. Enfin, si on parle de la finance, j'ai l'impression qu'il y a des projets qu'ils sélectionnent. J'en ai vu un passé, notamment, très safe.
Moi, je pense qu'ils peuvent prendre aussi de la DeFi et des trucs avec des tokenomics très, très strong et tout. C'est juste que, comme il le dit, et moi, je le vois très bien sur Twitter, tu as vraiment des clans anti-VC, ouais. etc., etc. Et c'est hard. Et en plus, quand tu vois, en fait, le truc, c'est quand tu vois combien YC prend dans les boîtes.
Ouais,
pour une startup Web2 qui a envie d'avoir d'hypercroissance, qui comprend tous les advantages qu'elle peut avoir, c'est un no-brainer d'y aller. Pour une Web3 qui a l'impression que l'argent coule dès qu'elle fait un tweet et qui ne comprend pas qu'en fait, ce serait intéressant d'être éduqué, parce que c'est ça aussi, hein, c'est de s'éduquer un peu, et que oui, tu peux avoir 23, 24 ans, avoir plein de VC qui veulent te donner des millions, mais tu peux aussi les cracher comme un con et faire les pires conneries que tu puisses faire en termes de produits, en termes de marketing, en termes de branding, en termes de stratégie, et que tu penses qu'en fait, tu peux juste t'éduquer grâce à Twitter. Ils ne vont pas accepter d'aller donner des pourcentages à YC. Quoi.
Ouais. Même Web2, hein, y a des gens qui ont des hésitations, hein, des gens qui disent « Ah non, mais YC, ils prennent trop et tout. » Donc, en crypto, c'est encore plus. Quoi.
Je trouve que l'opposition VC versus bootstrapping est beaucoup plus présente en Web2. Sur les projets Web3 que… Non, Web2, justement. Sur les projets Web3 que je suis, en tout cas, il y a une majorité qui lève des fonds.
Oui,
sans passer par les organismes.
Oui, mais est-ce que tu as non, vu mais... ce qu'ils donnent? C'est-à-dire qu'ils donnent très peu pour beaucoup d'argent. YC, genre le deal de YC.
Oui, mais ça veut dire que ce n'est pas une philosophie. Pour... Ce n'est pas par philosophie ou par opinion ou par conviction politique qui ne veulent pas. Tu avais l'air de suggérer que les projets Web3 ne voulaient pas lever des fonds. Comme si s'il y avait deux camps.
Non, ils lèvent presque tous des fonds, c'est pas ça le. Non,
okay,
non,
d'accord.
Je me suis mal exprimé. C'est non. C'est qu'ils pensent que juste. Que eux, ce qu'ils veulent, c'est des experts crypto et des experts
et de la monnaie.
Qui leur donnent beaucoup d'argent pour peu de pourcentage okay, pour une grosse valo. C'est ça qu'ils veulent. Et YC, c'est pas ça. Alors, il y a certainement quelques experts crypto. Par contre, il y a des experts entrepreneurs. Il y a des experts de OK, comment on build une boîte. Et,
je suis d'accord. D'accord. Tiens. Tout à fait et, d'accord.
Et du coup, le deal n'est pas du tout adapté, je pense, à des boîtes Web3, mais peut-être qu'ils feront un truc à part, je sais pas. Voilà.
J'espère qu'il y en aura plus à l'avenir, mais bon, on verra.
Ouais.
Et du coup, on en reparlera dans un épisode prochain. J'espère qu'on pourra parler des boîtes crypto.
Bon, bah.
Dans le prochain batch YC, peut-être.
Carrément.
Écoute, c'était super cool. Si vous n'avez rien à rajouter, les gars, on peut clore. On a quand même bien tenu. On a tenu une heure et demie au moins. C'est passé très, très vite. On va te laisser aller prendre ton rendez-vous. C'était un plaisir, n'oubliez pas de vous abonner. On mettra bien évidemment la chaîne YouTube de Gabriel en dessous, enfin
merci. YouTube.
Et on se revoit bientôt.
Abonnez-vous, merci à tous les deux de m'avoir reçu et à très vite. Et mettez un like,
grand plaisir.
Un abonnement et tout.
Ouais, abonnement.
Merci beaucoup. Ciao. Merci beaucoup. Ciao.